Moi, je crois que de toute façon, les autres personnes vont nous rejoindre. Hein, il est un peu plus de 18h. On va pouvoir commencer si vous voulez bien. Tout d'abord, pour remercier celles et ceux hein, qui ont, avec beaucoup de gentillesse, adressé des messages de sympathie durant les dernières semaines et les derniers mois. Donc, j'étais absent un peu plus de 5 mois. Hein, ça va mieux, même si je reste encore fatigué aujourd'hui. Hein, il y a un lourd traitement médical et beaucoup d'activités physiques et la diététique pour faire repartir le cœur dans des bonnes conditions pour les mois à venir. En tout cas, je voulais remercier les messages sympathiques que j'ai pu recevoir, parce que c'est toujours touchant quand on est dans une difficulté. Et il y a deux personnes que je voudrais, en plus de toutes que je viens de citer, remercier particulièrement, c'est Olivier Faucheux et Jacqueline Mathias, qui m'ont vraiment, en plus de toute l'équipe hein, de l'exécutif, hein, du bureau municipal, fait un gros boulot durant toute cette période, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun dossier qui soit en souffrance. Le rythme est resté le même, parfois même accéléré, j'ai trouvé. Donc je suivais ça à distance, mais en tout cas, je voyais les chantiers qui avançaient, qui se poursuivaient, et aucun retard n'a été pris dans le fonctionnement ni dans l'investissement de la ville. Donc merci à toi, Olivier, hein, d'avoir été aussi présent et d'avoir encore, en plus de toutes tes autres missions, et elles sont déjà nombreuses, on sait combien tu te dévoues pour le sport, hein, d'avoir aussi travaillé sur les autres dossiers. Et puis là, peut-être tout particulièrement pour Jacqueline Mathias, qui me tenait informé par des notes quotidiennes de l'ensemble de l'avancée des dossiers, et à chaque fois, on pouvait échanger aussi bien par Internet que par téléphone, par visite à domicile lorsque je me suis retrouvé à la maison, de pouvoir justement œuvrer pour le bien de la ville. Donc je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement. Merci. On va pouvoir donc ouvrir cette séance du conseil municipal. C'est mon premier conseil depuis cette période. Hein. On a déjà quelques instances qui vont se réunir. J'étais à la région jeudi et vendredi. Donc aujourd'hui, conseil municipal de la ville de Carhaix. Mercredi, il y aura CIRCOB. Et puis jeudi, il y aura aussi le conseil communautaire avant la période estivale qui va s'ouvrir devant nous avec bon nombre de ces festivités sur Carhaix et le Poer. Je vais d'abord vous demander autorisation, si on est d'accord, il manque une pièce au dossier, retirer la question numéro 39 concernant un droit de passage dans la rue Briseux. Si vous êtes d'accord de retirer la question, là, on la passera en commission d'urbanisme et elle pourra revenir après en conseil municipal dans les prochaines semaines. Et la remplacer, si on est d'accord, on l'abordera au moment des travaux. On verra, il ne faudra pas oublier d'ailleurs, je vous demanderai peut-être de faire attention à ce que, à moins qu'on la transforme en 39, mais ça sera dans la question d'urbanisme. Jacqueline, si tu vas bien noter, on doit rajouter la question de travaux d'aménagement de la place de la mairie avec l'attribution des marchés. Une bonne nouvelle pour début des travaux prévus en septembre. Donc si vous en êtes d'accord. On vous donnera les montants, bien sûr, et les entreprises qui ont été retenues. Je dois aussi donc proposer en secrétaire de séance, donc, puisqu'il y a quelques procurations. Alors, je vais donner lecture des procurations. Merci, Anna. Ah oui, je dois aussi vous faire part d'une très bonne nouvelle. Il ne faudrait pas que j'oublie. De la naissance de Jocelyn, le fils de Gwenéric Keller, notre DGS, qui est né samedi. Et donc j'ai demandé quelques nouvelles à Gwenéric ce matin. Et je peux vous faire part, donc, il est né samedi à 11h03. Donc, et il pesait 3,250 kg, un beau bébé, et 49 cm. Il a les yeux sombres, comme souvent les bébés, m'a-t-il dit, mais déjà très chevelu. Donc voilà. Donc on lui souhaite vraiment, ainsi qu'à Jocelyn, et puis bien sûr des félicitations à la maman et au papa, hein, qui, je crois, pour la maman, est déjà rentré à la maison cet après-midi. Donc voilà. Bienvenue au petit Jocelyn. Donc je vais vous donner lecture des pouvoirs de Hélène Guimot, qui me donne procuration, d'Isabelle Offrette à Serge Couteller, Michael Claude à Yann Manac, Laure Boussard à Pierre-Yves Thomas, et Carole Rogard à Catherine Boulanger en attendant son retour. Et puis également demander donc en secrétariat de séance à Pierre-Yves Thomas. Donc c'est Laure qui était prévue en secrétariat, mais ce serait donc Pierre-Yves Thomas si on est d'accord. Merci. Donc voilà, les questions à retirer ont été faites, la question à ajouter est également réalisée. Et bien on peut ouvrir désormais la séance du Conseil municipal par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 avril. S'il y a des remarques ou des questions?
Oui, les remarques sur le procès-verbal. En fait, ce n'est pas un procès-verbal. Je vais vous lire un petit peu la définition d'un procès-verbal. Et vous allez voir que ça n'a aucune connotation avec un procès-verbal. Un PV est un document qui résume les discussions, les actions et les votes d'une réunion formelle. C'est un document officiel ayant pour objectif principal de consigner les différentes décisions Il constitue la retranscription des échanges verbaux effectués par les participants. Donc, en fait, je ne dis pas qu'il n'est pas juste, mais ça ne correspond pas à un procès-verbal. Nous n'avons que les questions et les votes. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe dans le conseil municipal. On ne sait pas ce qu'ont dit les élus, les uns et les autres. Et donc, et en plus, il n'est pas mis à la connaissance du public, ce qui est regrettable.
Oui, justement, j'ai entendu Jean-Bernard me glisser, il vient de se faire une petite opération dentaire, donc un souci de douleur. C'est Yann Malak qui prendra ses questions, je crois, pour qu'il puisse présenter les questions d'urbanisme. Oui, j'entends votre remarque. On va vérifier. Hein. On sait qu'on a un conseil donc juridique hein, qui nous suit sur toutes ces questions, c'est le cabinet LGP. Donc on vérifiera. Hein, s'il y avait de demandes particulières en la matière, pourquoi pas. La précision à apporter, peut-être, c'est que nous avons ici une particularité, c'est que les conseils municipaux sont enregistrés. Et alors, je ne sais pas si on demandera, hein, moi je ne vais pas en faire un débat juridique là-dessus. Hein. Donc on vérifiera si le fait que l'enregistrement des débats ne correspond pas, en fin de compte, au compte rendu qu'il pourrait demander en termes écrits, qui correspondrait à la même chose, sauf qu'on n'aurait pas d'abord à retranscrire tous les propos tenus par les uns et par les autres, ce serait un travail trop fastidieux, ou de synthèse, qui parfois aussi est difficile à faire parce que la personne qui a tenu les propos pourrait considérer que ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit ou en tout cas qu'on n'aurait pas été exhaustif sur tout ce qu'elle a pu prononcer. Donc vous voyez, là on rentre dans un champ qui est encore plus difficile et scabreux pour une secrétaire de mairie hein, qui aurait elle-même tout ce travail effectué. Donc on va vérifier. Moi, on demandera aussi à la préfecture.
C'est ce qui se fait dans toutes les mairies. Hein.
On demandera à la préfecture.
En plus, ce n'est pas un compte-rendu et ni des minutes. C'est un procès verbal. Donc c'est une synthèse des propos des uns et des autres. Voilà, c'est tout. Donc,
on demandera aussi à la préfecture. On va vérifier. Ces points qui sont importants en termes juridiques, savoir si on doit aller plus loin dans la rédaction des comptes rendus ou pas, ou si l'enregistrement Internet est suffisant. Voilà. On vérifiera le nécessaire. Donc on a pris la remarque en compte en tout cas. Et bien autrement, on va commencer l'ordre du jour avec l'approbation des comptes de gestion du trésorier 2022. Daniel Cotten.
Donc les comptes de gestion du trésorier pour l'année 2022 mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs. Donc vous avez le budget général avec un excédent de 1 243 395,72 en fonctionnement. En investissement, 1 018 940,58 et des restes à réaliser en dépenses de 566 464,15. Des restes à réaliser en recettes de 612 942,28. Pour le budget de l'assainissement, un excédent de 102 548,47 €. Et en investissement, un solde positif de 5 958,51 €. Des restes à réaliser en dépenses de 320 471,93 €. Et des restes à réaliser en recettes de 1 023 478,75 €. Les autorisations d'urbanisme, un excédent de 366,67 €. Pour le budget de l'eau, un excédent de 516 573,06 €. Et pour l'investissement, un solde positif de 421 064,53 €, des restes à réaliser en dépenses de 281 448,14 €, et des restes à réaliser en recettes de 83 375,10 €. Et enfin, le budget lotissement du POER en dépenses 67 433,13 €. Et en déficit donc de 67 443,13 €. Et enfin, un solde positif en section d'investissement de 57 527,85 €. Voilà pour les comptes de gestion du trésorier.
Merci Daniel. Parce que vous avez des questions ou des remarques, on peut adopter. Des votes contre, des abstentions, deux abstentions. Merci. Eh bien, d'abord, désormais, les comptes administratifs. Oui, pardon. Là, c'est les comptes de gestion. Ce sont les comptes du trésorier. Enfin, c'est du percepteur. Quoi. Deux abstentions, c'est ça hein? Ah, pardon, j'ai pas compris. OK. Non, c'est parce que vous avez peut-être pas mis le micro, c'est pour ça. Donc, vote contre Sachant que ce n'est pas le travail de la commune, ça, c'est le travail du percepteur. Hein, c'est la vérification qu'il fait de nos propres comptes pour que plus après présenter nos comptes administratifs. Je le précise, ce n'est pas le travail de la ville, là, c'est le travail du trésorier. L'approbation des comptes administratifs, donc là, je laisse à nouveau la parole à Daniel Cotten.
Donc là, il faut aller, avant de les approuver, bien sûr, sur le rapport de présentation des comptes administratifs. Donc je vais vous les présenter. Alors, mon papier, il est passé où ? Toc. L'annexe. Ah ouais, merci. Vous le savez, le compte administratif retrace la situation financière de la collectivité. Le compte administratif est un document de synthèse. Il rend compte de la gestion comptable de l'ordonnateur, constate les résultats comptables et enregistre les taux d'exécution budgétaire. Cette traduction financière des ambitions communales correspond au compte de gestion établi en parallèle, comme on l'a vu, par le comptable de la collectivité. Ce rapport financier est un exercice de transparence visant à rendre compréhensibles les données financières ainsi que les données financières afin que la collectivité puisse faire le bilan des décisions prises avec pour objectif d'optimiser la qualité du service public rendu et de maîtriser les dépenses. C'est un moment privilégié d'examiner ensemble les politiques menées au bénéfice des citoyens du territoire. Depuis 2017, dans un contexte financier national difficile, avec des dotations de l'État en baisse et des mesures gouvernementales venues affecter la masse salariale, car grâce au dynamisme économique, à une rigueur financière forte, c'était fortement désendetté, de 3 années 3 de désendettement contre 5,52 années en 2013. Fin 2019, la collectivité dégageait un autofinancement suffisant pour financer un programme d'investissement ambitieux et responsable en faveur des habitants du territoire. 2020 a été marqué par la crise sanitaire sans précédent. Cette crise aura coûté 180 000 euros en dépenses de fonctionnement et 107 en recettes. Le cycle d'investissement a également été perturbé durant la première période du confinement. 2021, donc, on a constaté l'amélioration des recettes fiscales liées au rattrapage sur les taux de la taxe foncière, qui a permis de maintenir l'épargne à un niveau suffisant pour réaliser le programme pluriannuel d'investissement et de faire face à l'inflation et l'augmentation du point d'indice. En 2022, les comptes administratifs traduisent l'augmentation des dépenses de fonctionnement liées à l'inflation et l'augmentation de 3,5% du point d'indice. Alors que les marges de manœuvre s'étaient reconstituées depuis 2017, l'épargne brute qui sert à financer les investissements et à rembourser les emprunts pourrait, sous l'effet de l'inflation et l'explosion des prix d'énergie, se contracter fortement en 2023, obligeant la collectivité à revoir son programme pluriannuel d'investissement, d'autant plus que les effets de l'inflation et le coût de l'énergie risquent de perdurer, bien que de façon légèrement atténuée, dans les 2 années à venir. J'arrive à la page 4 du budget principal. Vous avez donc un graphique là, donc, sur l'évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2012. On constate qu'entre 2021 et 2022, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 6,3%. Cette augmentation est due en partie à l'évolution des charges de personnel, point à étudier plus loin, l'inflation augmentation du coût des repas de cantine, la réfection des terrains de foot du fait de la sécheresse, à nouveau au nouveau contrat d'assistance technique infogérance, au nouveau contrat de détopisation, aux formations, aux réparations sur matériel roulant, à l'augmentation des fournitures, produits d'entretien, vêtements de travail, etc., l'augmentation des carburants, bien sûr, et au remboursement de PER communauté pour la mise en place du portail famille. Depuis la baisse des dotations de l'État, les budgets sont marqués par le souhait politique de maîtriser les dépenses de fonctionnement à caractère général. Aujourd'hui, l'évolution des charges est contextuelle, liée en grande partie à l'inflation et à l'évolution de points d'indice. Vous avez donc ensuite un tableau avec l'évolution des principales dépenses de fonctionnement depuis 2016. Donc, en dépenses de fonctionnement courant, nous sommes à 7 806 000 euros. Ben, il s'éteint tout seul. En 2020, la subvention CCAS évolue de 25 000 euros pour le financement des bons alimentaires. Et il n'y a pas d'autres participations à verser au SMATA depuis 2019. Vous avez ensuite un graphique de l'évolution de charges énergétiques depuis 2020, donc qui est assez conséquent. Hein. Ensuite, page 6, vous avez un tableau sur les charges de personnel avec la pyramide des âges des agents permanents de Carhaix au 31-12-2022. Et on a l'évolution des charges de personnel. Donc en 2022, le montant réel des charges de personnel est de presque 4 millions. Après avoir baissé en 2015 et 2016, les charges de personnel avaient retrouvé en 2017 leur niveau de 2014 du fait de factures externes à la collectivité, dispositions prises par l'État en matériel, en matière de personnel, réforme de la catégorie C, augmentation du point d'indice et enfin l'ancienneté, ce qu'on appelle le GVT. Donc en 2019, elle avait augmenté du fait d'arrêt pour longue maladie compensé par l'assurance statutaire. En 2020, elle avait augmenté du fait du GVT, de l'augmentation de la cotisation statutaire, d'une diminution de remboursement d'arrêt maladie et la participation au Glénmore et le CLAGE. En 2021, les charges personnelles étaient stables, les compensations avaient augmenté avec les remboursements, les frais de personnel liés au centre de vaccination Covid, hein, plus 56 000 euros, et au remboursement des frais de personnel du budget annexe. En 2022, les charges de personnel augmentent avec l'évolution du point d'indice, on l'a vu, et le développement d'une organisation mutualisée avec Power Communauté a permis de rationaliser des ressources et de réduire des coûts. Il y a donc d'autres charges de fonctionnement, c'est les charges de gestion courante, hein, donc les indemnités, la subvention au budget du Glénmore, au budget du CCAS, au SIASC, les subventions de fonctionnement aux associations, 172 000 euros, la participation au SIESC, au syndicat d'électrification, et les subventions à l'OGEC. Les charges financières, ça comprend les intérêts de la dette et les intérêts courants non échus, atténuation de produits, le fonds de péréquation, ce qu'on appelle le FPIC, et des charges exceptionnelles. Donc vous avez ensuite ce qu'on appelle un camembert sur la répartition des dépenses de fonctionnement. Donc globalement, vous avez une lecture rapide avec votre document. Page 8, vous avez le coût social des politiques communales. L'analyse en termes de coût social des politiques communales permet de suivre l'évolution du coût net des services rendus à la population. Donc la restauration scolaire, nous avons des dépenses, des charges de personnel, le coût social est donc de 487 000 euros 874. Donc il y a eu une augmentation du coût des repas, il est passé de 3,50 à 3,63 et donc en fait on le refacture entre 0,80 centimes et 2,86 centimes pour les enfants et à 4,54 pour les adultes. Donc la collectivité a acheté à l'ESAT Caen Armor un peu plus de 40 000 repas enfants et 2 900 repas adultes, soit en tout 43 000 repas achetés à l'ESAT. La garderie périscolaire, le coût social est donc de 42 000 euros environ. On prend environ 58% du coût du service. Enfin, bien sûr, page 9, les recettes. Nos recettes, c'est éventuellement, le produit de la fiscalité. Nous avons un peu plus de 9 500 000 euros de recettes. Vous avez le détail après, dont je vous fais grâce, hein, sur la fiscalité directe, la taxe d'habitation, le foncier, etc. Donc, un commentaire. En 2016 et 2018, les recettes fiscales connaissent une évolution d'environ 484 000 euros. Cette évolution est due au dynamisme économique du territoire. Depuis 2018, son classement en zone de revitalisation rurale, ce qu'on appelle ZRR, Carhaix n'a plus de prélèvement sur ses recettes fiscales. On a en 2019 une recette supplémentaire de taxes additionnelles, c'est-à-dire les droits de mutation. Cette taxe est liée au prix du nombre de cessions de biens immobiliers sur la commune. Elle varie d'une année à l'autre. En 2021, ça évolue de 500 000 euros de fait de l'augmentation de la taxe foncière et du transfert de la part de foncière départementale, des remboursements liés au centre de vaccination, de l'évolution des droits de mutation, donc 118 000 euros, et des remboursements du CCAS pour le personnel mis à disposition. Et donc on a le SPIC, hein, donc qui ne nous est pas très favorable, hein, donc de plus de 104 000 euros. Donc c'est, comment dire, l'augmentation du projet fiscal a engendré une hausse de la péréquation, qui a également des répercussions sur l'évolution des dotations de péréquation de l'État. Atténuation de charges de produits, ça évolue défavorablement, il comprend principalement les remboursements des arrêts maladie. Les sommes encaissées sur ce chapitre viennent en déduction des charges de personnel pour estimer le coût réel de la base salariale. Produits des services, c'est l'ensemble de nos produits, garderie périscolaire, la restauration scolaire, les concessions de cimetière, le camping, la patinoire donc en hiver, les redevances d'occupation du domaine public, les remboursements des budgets annexes du pôle funéraire, de l'eau, de l'assainissement et du Glenmore pour la mise à disposition de personnel. Impôts et taxes, une évolution de 101 000 euros par rapport au CA 2021, c'est lié à l'évolution des valeurs locatives. Dotation, participation, il est stable. Et en fait, ce qu'on appelle la DGEF, donc c'est la dotation forfaitaire et la dotation solidarité rurale. Donc c'est... on peut dire que la ville de Carhaix, ça se traduit par une baisse sur la période 2013-2021 de plus de 600 000 euros. Donc c'est beaucoup. Les autres recettes de fonctionnement, ça comprend des produits de gestion courant, des revenus des immeubles et des remboursements d'assurance, des produits de cession et des refacturations de charges. L'évolution de l'épargne principale, on a un excédent de fonctionnement en 2022 de 1 243 395 euros. Et donc la section de fonctionnement atteint 1 243 000 euros contre 1 636 000 euros l'année précédente. Nous avons un tableau ensuite qui vous donne les principaux indicateurs financiers de la ville de Carhaix et permet d'apprécier la situation financière de la collectivité par l'évolution de son épargne. Vous avez ensuite, page 13, un graphique de l'évolution de la capacité d'autofinancement de la ville. Entre 2017 et 2021, l'amélioration de l'épargne est liée à un triple phénomène. La maîtrise budgétaire, avec des économies conséquentes sur les charges à caractère général, l'arrivée de 7 emprunts à échéance et au dynamisme économique, et en 2019, un nouveau élevé d'épargne vient de la taxe additionnelle. Sans cette recette, l'épargne aurait été moindre à 734 000 euros. En investissement, le solde de la section d'investissement en tenant des restes à réaliser est de 972 000 euros 462 et vous avez le détail en dépenses et en recettes. Vous avez l'évolution des dépenses de fonctionnement, donc de l'année 2022. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2019 et 2020, on a réalisé de gros investissements structurants, construction des locaux associatifs et pédagogiques, aménagement de la rue du Docteur Mingui et la réhabilitation de la mairie. Les dépenses d'immobilier sans corporel, c'est des frais d'études, l'aménagement de la place du champ de foire, l'étude de faisabilité d'un héliport, renouvellement de l'essence informatique, et un film visuel sur l'aménagement du centre-ville. Donc on a des participations pour le lotissement de Kerléon, les subventions de Bravalement, et une participation pour une enseigne bilingue. Donc on a d'autres immobilisations corporelles qui correspondent à l'acquisition de terrains rue des Clochettes et rue Ricou, aménagement des terrains de tennis extérieurs, l'installation d'une aire de jeu au Square Mignon, la rénovation d'un mur en pierre et la pose d'une nouvelle main courante au stade Pinson, l'installation de 2 cabanes étapes au camping et la reprise des concessions dans les cimetières, dont bien sûr du renouvellement de mobilier, l'achat d'un minibus pour l'office des sports. Renouvellement informatique, acquisition d'un aspirateur de ville, d'un robot de tonte et d'une benne. À l'installation de la rue, la statue de Kérusoré, l'installation d'un tableau de Forges-Vidaman. Donc des travaux sur l'électrification des éclairages publics, des travaux sur les eaux pluviales, installation de voiries, renouvellement de matériel divers et un cheptel. Donc après, on a la liste des principaux travaux réalisés. Je ne vais pas vous en faire tout le détail parce que c'est vraiment très long. C'est essentiellement des travaux dans les écoles. Et bien sûr, salle omnisports, château rouge, etc., etc. Les immobilisations en cours correspondent à des travaux de construction, de rénovation de bâtiments et des réseaux qui sont réalisés sur plusieurs exercices. Donc on a les locaux associatifs République, chantier Cob, rue Laennec, travaux de réhabilitation d'un mairie, études pour la construction d'un cinéma et des travaux au pont de Carroisse. Et des autres dépenses, ce sont les remboursements de caution bancaire, des remboursements du capital de la dette. Et vous avez donc un camembert, encore, sur la répartition des dépenses d'investissement. Donc vous avez une lecture rapide hein, de tout ce qu'on a réalisé. En recette, on a donc la taxe d'aménagement, le fonds de compensation de la TVA, l'excellent fonctionnement capitalisé. Et donc on a un niveau de subvention de un peu plus de 540 000 euros, ce qui est bien, et des subventions attribuées à la collectivité pour 576 000 euros ont été inscrites en reste à réaliser sur le compte administratif de 2022. Elles seront perçues en fonction de l'avancement des travaux. Donc vous savez que à mesure qu'on avance dans les travaux, on sollicite les subventions qui nous ont attribuées. Voilà pour la partie budget principal. Et je vais sur les budgets annexes. Hein, le service d'assainissement a un excédent de fonctionnement prévisionnel de 102 548 euros. Et enfin, le solde de la section d'investissement prévisionnel 2022, 5 958 euros. Les principales dépenses d'équipement en investissement correspondent à des travaux sur le réseau. Un peu plus de 400 000 euros, la maîtrise d'œuvre pour un poste de relèvement et le remboursement du capital de la dette. Donc, et en fonctionnement, remboursement des intérêts d'emprunt, dotations amortissement, remboursement budget principal pour des frais de personnel, location d'infrastructures, entretien de matériel. Donc, les recettes de fonctionnement comprennent ce qu'on appelle la surtaxe, c'est la part d'assainissement versée par notre prestataire Veolia, les participations d'une entreprise, la participation pour les raccordements au réseau et l'amortissement de subventions. Donc l'état de la dette, trois emprunts, qui arrivent à échéance en 2027, 2028 et 2030. Le budget de service d'eau potable, excédent de fonctionnement prévisionnel, un peu plus de 516 000 euros, et le solde d'investissement prévisionnel de 421 000 euros. Les principales dépenses d'équipement de l'année 2022 correspondent à des frais d'études, des travaux sur le réseau, 252 000 euros, et le remboursement du capital de la dette. Les recettes d'investissement sont compensées des amortissements, d'une subvention de l'agence de l'eau et l'affectation des résultats. Les dépenses de fonctionnement, remboursement des entrées d'emprunt, dotations amortissements. Donc l'état de la dette, le budget eau rembourse trois emprunts, dont un arrive à échéance en 2024, et en 2022, l'annuité de la dette était de 35 000 euros. Donc maintenant, ce qu'on appelle le budget d'instruction des autorisations d'urbanisme. Il présente un excédent de 366 euros. Les recettes de 14 000 euros correspondent au remboursement par les communes de Poulaouen, Tréfrin, Le Moussoir, Landelot, Collerec, Plonévy-du-Fou, pour des prestations réalisées par la ville de Carré pour leur dossier d'urbanisme. Et des dépenses correspondent aux frais de personnel et aux fournitures pour fonctionnement du service. On passe au budget du lotissement du POER. Il doit être équilibré en fin d'exercice, n'a pas d'inventaire, il permet de retracer l'ensemble des opérations liées à la création du lotissement, suivre l'aménagement et la commercialisation des terrains. Donc on a un déficit de fonctionnement prévisionnel de 67 000 euros. Et enfin, donc, nous allons, si vous voulez bien, sur la page 22, on a donc l'état de la dette du budget principal. Donc l'arrivée à échéance de plusieurs emprunts a offert la possibilité de réaliser de nouveaux emprunts sans impacter l'annuité de la dette qui reste en dessous de son niveau de 2016. Les emprunts réalisés entre 2014 et 2022, soit 12 millions, ont été contractés à taux fixe compris entre 0,47% et 2,23%. Fin 2022, vous le savez, les taux d'intérêt sont remontés et en 2023, l'emprunt de 1 million a été contracté à taux fixe à 3,66%. Vous avez donc un graphique ensuite l'évolution de l'annuité de la dette. À ce jour, 93% de la dette de la collectivité est indexée à taux fixe. Les emprunts à taux variable représentent désormais 6,95% de la dette. Ils sont indexés sur ce qu'on appelle le taux Euribor et leur taux varie entre 0,45 et 3,75. Les emprunts à taux variable arriveront tous à échéance dans 6 ans. Donc on a ce qu'on appelle la capacité dynamique de nos endettements. Elle se fait avec, entre le rapport de stock de dette et la capacité d'autofinancement. Et elle indique le nombre d'années d'épargne brute nécessaire pour rembourser la dette en n'y consacrant que cela. Et donc à la dernière page, page 24, nous arrivons à ce qu'on appelle la capacité de désendettement de tous les budgets confondus. Les stocks de dette, c'est de 12 millions. Voilà.
Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces comptes? Oui, Jérôme Vinec.
Non, juste une remarque. Il me semble qu'on aurait dû les voter pour le 30 juin. Je trouve un petit peu dommage, vu le nombre de points qu'on a aujourd'hui au Conseil, qu'on n'ait pas anticipé un peu les choses en réunissant le Conseil il y a peut-être 2-3 semaines. Non, voilà, c'était juste une remarque.
Je vois que vous êtes... donc de faire un seul et même conseil municipal, sachant que je ne pouvais pas être là avant le 30 juin. Et donc je tenais aussi à être présent pour reprendre officiellement les activités. Et du coup, pour éviter un deuxième conseil vers le 15 ou le 20 juillet, je trouve qu'à ce moment-là, tout le monde est en vacances, de faire en sorte plutôt de concentrer, même si c'est un peu lourd cette fois-ci, je m'en excuse, d'arriver à avoir un seul et même conseil, aussi bien au niveau municipal qu'au niveau communautaire. Mais il n'y a pas d'obligation de passer avant le 30 juin. Nous avions vérifié tout cela avant. Je sais pas si il y a d'autres remarques. Mais je vais sortir de la salle parce que je vais peut-être informer, mais nous aurons désormais un certain formalisme à respecter. Avant que je me fasse attaquer, je vais sortir de la salle et je vais laisser Jacqueline Mazias procéder au vote.
Pouvoir procéder au vote. Pour le budget général, y a-t-il des votes contre? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien ça. Si on peut noter les noms. Pour le budget du service y a-t-il des abstentions? Merci. Pour le budget du service assainissement, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Et monsieur, c'est une voix ou deux voix, monsieur? Deux, six. Les deux votent pas forcément la même chose. Donc, il vaut mieux qu'on voit les deux doigts ou... Pour le budget du service eau, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Là, je ne vois que 4. Ou levez la main. Pour le budget lotissement du POER, y a-t-il des votes contre? Donc 2 contre. Des abstentions? 4. Merci. Pour le budget instruction d'urbanisme, y a-t-il des votes contre? 2. Les abstentions? 4. Merci. On va pouvoir rappeler Monsieur le maire.
Bien, on peut donc poursuivre après les comptes administratifs, l'affectation des résultats, Daniel ?
Suite à la présentation des comptes administratifs du budget principal, des autres budgets, eau, assainissement, lotissement du POER, instruction des autorisations d'urbanisme, il y a lieu d'affecter les résultats. Donc en investissement, 1 018 945 58, en fonctionnement, 1 243 395 €. Il est proposé d'affecter les résultats de la façon suivante. À la couverture d'autofinancement, exécuter le virement prévu au BP, un peu plus de 243 000 €. L'affectation à l'excédent reporté de fonctionnement, 1 million. Un total affecté, donc, de 243 395 €. Un résultat d'investissement, donc, de 1 018 940 58 €.
Merci, Daniel.
Pour la suite, donc, on votera après en bloc. Le budget service d'eau, donc chiffre à prendre en compte pour l'affectation des résultats, en investissement 421 000 € et en fonctionnement 516 573 €. Il est proposé d'affecter le résultat de la façon suivante, à l'excédent reporté de fonctionnement 516 573 €, et donc ça donne un déficit global cumulé de 0. Et le résultat d'investissement, 421 000 €, 0,64,53. Donc il vous est proposé de faire ainsi. De la même façon, pour l'assainissement, en investissement, 5 958,51 €, en fonctionnement, 102 548. Donc il vous est proposé d'affecter la façon suivante, affectation à l'excédent reporté de fonctionnement de 102 548 € et un déficit cumulé de 0. Ensuite, lotissement du POER, un déficit de fonctionnement de 67 443 €, un solde d'investissement positif de 57 527 €. En investissement, donc on vient de le dire, il vous est proposé d'affecter le résultat de la façon suivante, l'excédent global cumulé de 67 433 €13. Et un résultat d'investissement à reprendre, 57 527 €85. Et concernant les budgets d'instruction d'urbanisme, un excédent de fonctionnement de 366 € et de l'affecter donc en recette de fonctionnement pour le même montant. Ensuite, on en a fini avec l'affectation des résultats.
On va procéder au vote. Alors, pour l'affectation des résultats du budget général, là, y a-t-il des votes contre ? Donc 6. Pardon, vous ne m'entendez pas. Pour le budget du service assainissement, y a-t-il des votes contre ? Donc 2. Y a-t-il des abstentions ? 4. Pour le budget du lotissement du POER, y a-t-il des votes contre ? 2. Y a-t-il des abstentions ? Pour le budget des instructions, des autorisations d'urbanisme, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? 4. Je vous remercie.
Merci Jacqueline. Désormais, l'addition modificative numéro 1 du budget principal, Daniel ?
Oui, donc au budget 2023, il était inscrit provisoirement au compte R002, 105 105.
Le micro, Daniel.
Thank you. Il était inscrit provisoirement au compte R02 105 653 euros. Le résultat de fonctionnement était de 102 548 euros. Il convient donc de diminuer les crédits prévus. Et à compter de, au compte 2258, il faut régulariser le montant repris qui reste à réaliser de 197 000 euros. Afin d'équilibrer le budget, il est proposé d'augmenter le même montant, redevance d'assainissement collectif de 3 105 euros, le diminuer en emprunt de 197 000 euros 581. Et donc vous avez le détail dans le tableau qui suit.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut voter ? Des votes contre ? Abstention ? 4 abstentions ?
6.
6, j'ai pas vu. 6. Merci Anna. 6 abstentions, donc on poursuit par le budget assainissement. Budget eau d'abord.
Non. Non. On est arrivé.
Ah oui. Décision modificative de budget eau.
Je suis allé trop vite. Donc il était inscrit au budget eau 421 000 euros 623,93 et 516 749 euros. Donc les résultats étant ce qu'ils sont, il convient d'augmenter les crédits du compte R001 de 559,40 et diminuer les crédits du compte R1068 de 176 euros. En section d'investissement, donc vous avez le tableau et il conviendra d'approuver la décision modificative. Et enfin, l'assainissement, un résultat de fonctionnement était de 102 548 euros. Il convient donc de diminuer les crédits de 3 105 euros. Et il faut régulariser le montant repris, on reste à réaliser, de 197 581 euros. Afin d'équilibrer le budget, il est proposé d'augmenter du même montant le redevance d'assainissement collectif de 3 105 euros, de diminuer le compte emprunt de 197 582 euros. Donc vous avez le tableau ensuite.
Je vais faire voter donc pour budget assainissement. Budget eau d'abord. Des votes contre ? Abstention ? 6 abstentions. Budget assainissement ? Des votes contre ? 2 abstentions. Et 2 contre. À chaque fois, c'est les contre ? D'accord.
2 contre et 4 abstentions.
2 contre et 4 abstentions. Pas de souci, on corrige. Merci. On en arrive. Au transfert de l'emprunt pour lotissement de Carléon.
Oui, alors je ne vais peut-être pas vous faire toute la littérature. On avait travaillé avec la SAFI qui a décidé sa dissolution à partir de novembre 2022. Le département du Finistère, qui était le principal actionnaire, a désigné comme liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation amiable. Il est possible de résilier de plein droit le contrat de concession sous réserve de l'accord du liquidateur. Donc il y a un accord de la SAFI. Le bilan de liquidation fait apparaître une rémunération de SAFI de 138 139 euros qui couvre l'intégralité des missions réalisées, et avec un solde de trésorerie de 68 000 euros qui nous sera restitué. La valeur du foncier sera à inscrire dans l'acte notarié et qui est de 223 000 euros. Ça fonctionne. Donc la valeur du foncier qui est inscrite est donc de 223 068 euros. Nous avons donc décidé de résilier la concession et aujourd'hui vous proposez aux membres du conseil de procéder au transfert de l'emprunt qui était garanti par la commune à la SAFI à hauteur de 80% qu'elle rembourse en lieu et place à la SAFI. Cet emprunt à moyen terme était de 350 000 euros et avait été réalisé en 2021. À un taux de 0,39 pour une durée de 5 ans. Le capital restant dû au 31 décembre est de 311 000 euros et on devra donc rembourser cet emprunt à partir de l'échéance de septembre. Donc il sera proposé de donner un avis sur le transfert de l'emprunt de la collectivité, d'autoriser le maire à signer les avenants et contrats nécessaires au transfert de l'emprunt.
Merci Daniel. Il y a des questions ? On peut voter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité. Les tarifs pour la garderie pour l'année scolaire à venir 2023-2024.
Donc il est proposé de maintenir les tarifs de cantine pour 2022-2023 pour l'année scolaire 2023-2024. Donc vous avez le détail hein, des garderies. Pour les cantines, vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va de 0,80 centimes le repas, avec au maximum 2,86 suivant le quotient familial. Et donc il vous est proposé de bien vouloir approuver ces tarifs.
Merci. Des questions ? Pas adopté, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Les actions en faveur du bilinguisme, les subventions pour les clubs sportifs pour la création de maillots bilingues français-breton, Olivier Faucheux.
La ville de Carhaix poursuit sa politique en faveur du bilinguisme afin de développer la pratique du bilinguisme au quotidien. Il est proposé d'octroyer aux clubs sportifs une aide financière pour la création de maillots ou tenues avec une inscription en breton et en français. Pour ce faire, un budget de 3000 euros est envisagé pour 2023 avec un plafond d'aide de 300 euros par club. Les dossiers seront étudiés par l'Office des sports par ordre d'arrivée des demandes. L'aide financière sera versée sur présentation des maquettes et de la facture. Si la commande dépasse les 300 euros, le club prendra en charge la différence. La question a été présentée à la commission des finances réunie le 13 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'approuver cette proposition. Pour mémoire, cette délibération avait également été prise en 2023. Le dispositif avait commencé en septembre. On avait eu 4 associations qui avaient perçu des aides pour ce dispositif. Et aujourd'hui, on a 5 associations en attente de percevoir cette aide. Donc c'est pour cela qu'on repasse cette délibération aujourd'hui en conseil. Merci.
Merci Olivier. Il y a des questions, des remarques ? Oui, Pierre-Yves Thomas. D'accord. Vous avez raison d'être prudent au niveau de la légalité. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver en la matière. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Donc, unanimité. On imagine qu'il est parti avec la voix de Laure Bossard aussi, qui n'avait pas voté la dernière fois pour. Bon. Donc on passe au budget participatif, Bertrand Bergot.
Afin d'anticiper et de s'adapter au changement climatique, il est proposé de mettre en place une action portant sur la préservation de la ressource en eau potable. Ce programme prendrait effet dès cette année afin de tenir compte de la situation quantitative de la ressource. L'objectif de ce programme est de sensibiliser et de responsabiliser l'ensemble des usagers aux économies en eau potable. Afin de lancer une dynamique sur le sujet, il est proposé de verser des aides aux particuliers afin de les aider à acheter une kit de récupération d'eau de pluie d'une contenance minimale de 300 litres, ainsi que le robinet et le kit de raccordement. Cette aide plafonnée à 100 euros serait versée dans la limite du montant du récupérateur d'eau et de son kit de raccordement. Elle serait limitée à une par foyer. Les bons d'achat pour l'achat exclusif de récupérateurs d'eau seraient remis aux Carhaixiens sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité au soutien financier, à savoir justifier de sa résidence à Carhaix par un justificatif d'identité et un justificatif de domicile, et acheter le récupérateur d'eau dans un des magasins de Power Communauté partenaires de l'opération. La question a été présentée à la commission des finances réunie le 13 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'approuver cette proposition et le règlement des aides à l'acquisition des récupérateurs d'eau par les particuliers. Voilà, et puis pour compléter l'information, donc les bons seront disponibles dès demain en mairie.
Merci. La mise en place du budget participatif, c'est bien. Sur des opérations, en plus, ça en particulier sur l'idée qui a été apportée, Bertrand Grimaud, je crois qu'il avait apporté cette idée, qui est une excellente idée et particulièrement d'actualité pour faire en sorte de récupérer l'eau et seulement de faire une bonne gestion de la réfaction de l'eau en général. Oui, Pierre-Yves Thomas ?
Oui, c'est une bonne idée. Elle a été retenue, c'est bien. Moi, ce qui me soucie, c'est qu'il y a des récupérateurs qui coûtent moins de 100 euros. Donc, on plafonne à 100 euros, c'est bien de donner un bon, mais s'il vaut 90, il va gagner.
Il rend 90.
C'est marqué. Ah bon, d'accord. Et par contre, ce que je voulais intervenir, c'est que puisqu'on est dans ce domaine-là, d'aider à une meilleure compréhension de ce qui nous arrive sur la planète, vous l'avez fait il y a quelques années, je crois, c'est de subventionner ou même de donner des kits pour, comment on appelle ça, le compostage.
Ah oui, serait, pour le compost.
Ça serait peut-être intéressant de se pencher sur ce problème aussi.
De poursuivre l'opération, hein.
Parce que ça existe déjà, hein, quand ça existe on va toujours, avoir hein. les poubelles connectées, ça serait peut-être bien qu'on incite les gens à faire du compostage.
À faire du compostage, évidemment.
C'est prévu dans la communication de Power Communauté, hein, d'inciter les gens à composter.
Merci. Donc on peut voter. Oui, il faut adopter. Oui. Vote contre. Abstention. Unanimité. Dégradation de remorque de la particulier. Non, c'est d'abord le stade par Saint-Passon. Il paraît que les équipes qui jouent contre les décès tirent trop en l'air et à côté des buts. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, mais par contre, il ne faut pas qu'ils visent la toiture à la place. Si j'ai bien compris. Par contre, les décès, eux, ça va droit au but. Et c'est au fond. Je dis ça comme ça parce que je vois le président au fond de la salle. Donc, je le salue d'ailleurs. Olivier ?
La toiture d'un particulier a été endommagée suite à des projections de ballons tirées du stade Charles-Pinson lors de matchs de foot. Une déclaration a été faite à l'assureur au titre de la responsabilité civile. Suite à l'expertise, l'assureur a sollicité la ville afin d'obtenir des informations relatives au club de football de Carhaix pour qu'il prenne en charge le montant des dommages. Les clubs de Carhaix ne sont pas les seuls à utiliser le stade Charles-Pinson. De nombreux matchs s'y déroulent chaque année. Les responsabilités civiles des clubs de football extérieurs invités à venir jouer à Carhaix pourraient également être mises en cause. La municipalité dont la responsabilité a été écartée dans ce sinistre ne souhaite pas que des recours contre les clubs de football soient engagés. Il y a une correction dans la délibération, c'est pas à la place des services techniques, il faut mettre le club des dernières cartouches et depuis intervenu pour améliorer les pare-ballons en retendant les câbles et en posant des filets complémentaires. La question a été présentée à la commission des finances réunie le 13 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'indemniser le particulier à hauteur de l'estimation faite des dégâts, à savoir 2016 euros.
Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? On peut adopter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Déclaration de la remorque d'un particulier, versant d'une indemnité de 750 euros. Daniel Cotten.
La ville de Carhaix, propriétaire d'animaux sur la ferme de Bretagne, installée sur les terrains de la vallée d'Hier à Kerniguet. Pour les besoins de cette ferme animalière, il a été fait l'acquisition d'une vache, Pie-Rouge. La ville de Carhaix ne disposant pas d'un véhicule adapté. On a mis à disposition un véhicule, enfin une remorque en fait. Et lors du transport, l'animal a endommagé. Le tapis de sol, le montant de la remise en état s'élève à 882 euros. L'assurance s'était engagée à hauteur de 132 euros. Et il y a une franchise de 750 euros qu'il est proposé de prendre en charge.
Merci Daniel. Vous avez vu aussi un bel article qui a été consacré dans les différents journaux hein, à cette opération de la Pie Rouge de Carhaix, dans l'emblème, hein, vous le savez. Hein. On a oublié de le dire lors de la conférence de presse. Et aussi celui de la ville de Carhaix, hein, c'est les armoiries de la ville, hein, donc de la Pie Rouge qu'on voit sur nos frontons, ici de la mairie en particulier, pour faire attention, on voit bien les cornes en forme de lyre. Hein. Si vous êtes d'accord pour cette indemnité...
Ah, juste une question, la Pie Rouge, elle n'existe pas pour l'instant.
Alors la Pie Rouge bretonne est issue de la Pie Noire, donc c'est ce qu'on a dans la ferme bretonne de Kerniguet. Mais la Pie Rouge de Carhaix n'existe plus, non, elle a disparu.
Elle n'existe plus, donc on fait l'acquisition d'une Pie Rouge, moi je veux bien... L'acquisition d'une vache, mais la Pie Rouge, si elle n'existe pas, on ne peut pas l'acquérir.
La Pie Rouge existe, on en a 5 exemplaires dans la ferme, dans la vallée de Lière.
J'avais compris qu'on faisait au niveau génétique, on essayait de la reconstituer, donc je ne sais pas. Maintenant, on me dit qu'il y a une Pie Rouge, bon, bah, c'est bien.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? On peut adopter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Projet classe de mer, Anne-Marie Cardraon.
Oui. La ville de Carhaix a engagé en 2022 le projet de réaliser pour les élèves CM1 et CM2 des classes de mer. Deux séjours ont été organisés en mars et avril 2023 pour les écoles de la République et de Persivien au centre nautique de l'île Tudy. Ce séjour comprend l'hébergement, l'encadrement des activités, la mise à disposition de matériel nautique et pédagogique, découverte du milieu marin, activités pêche, nautique, environnement maritime. Le pass mer de la région Bretagne est à nouveau actif pour subventionner les séjours entre septembre et février 24. La directrice de l'école élémentaire de Persivien a déposé une option de réservation pour un séjour au centre nautique de l'île Tudy pour septembre 2023, unique créneau restant pour le premier semestre 2023. 33 élèves partiraient en classe de mer et le coût du séjour par élève s'élève à 300 euros. La question a été présentée à la commission des affaires scolaires réunie le 15 juin 2023 et afin de financer le reste à charge, il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de solliciter la région afin d'obtenir des subventions dans le cadre de son dispositif classe de maire ainsi que tout autre organisme.
Merci Anne-Marie. Des remarques, des questions? On peut adopter, des votes contre, abstention, unanimité. Projet de création d'une piste d'athlétisme de 400 mètres à Quérampuil avec des demandes de subvention, Olivier Faucheux.
La ville de Carhaix a accueilli à 3 reprises les championnats de France de cross-country sur le site de Quérampuil. Ces événements ont connu un grand succès populaire et ont marqué notre cité. La qualité de l'accueil du circuit et le professionnalisme de l'association organisatrice locale sont reconnus. La Fédération française d'athlétisme souhaite s'investir davantage à Carhaix et en faire la capitale du cross français. Une convention de partenariat sera établie avec la Fédération française d'athlétisme visant à, dans un premier temps, créer sur le site des Quérampuil un parcours permanent de cross-country afin de mettre en valeur le patrimoine. Dans un second temps, pour développer le territoire et le valoriser, faire de Carhaix le site d'entraînement des équipes de France de cross-country avant les grandes échéances internationales. Enfin, suite à l'organisation des championnats de France en 2023, créer un événement populaire et national, le Festival du Cross à Carhaix, support d'épreuves populaires en lien avec le cross et les épreuves support des sélections des équipes de France pour les championnats d'Europe. D'ailleurs, cette date est arrêtée, ce sera le 3e week-end de novembre. Pour y arriver et donner aux athlètes toutes les conditions nécessaires, il faudra passer par la création d'une nouvelle piste d'athlétisme de 400 mètres, de 6 ou 8 couloirs, sur un terrain communal près du terrain, alors c'est pas du terrain de rugby, il y a une erreur, c'est près du terrain Pierre Plounévé, terrain de football Pierre Plounévé. Les discussions avancent en ce sens et ce projet est à l'étude. La ville souhaite donner les moyens à la LCP de développer la pratique de l'athlétisme, d'organiser des compétitions en partenariat avec la Ligue de Bretagne d'athlétisme. La construction de cet équipement performant permettra aux établissements scolaires d'enseigner l'athlétisme dans des conditions optimales. Un premier chiffrage a été établi. Donc vous avez le tableau de ce premier chiffrage. Hein, pour mémoire, c'est un cabinet d'études Sport Concept. On avait passé cette délibération au Conseil qui a été missionnée pour ce chiffrage. Afin d'avancer sur ce dossier, il est proposé de solliciter des subventions auprès du Comité olympique et sportif, l'Agence nationale du sport, le Fonds européen FEDER, la Fédération française handicap, la région Bretagne, le Comité départemental du Finistère et tout autre organisme. Ce projet a été présenté à la Commission des sports en avril, le 5 avril 2023. Il est proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions auprès des différentes collectivités et organismes. Donc aujourd'hui, on est uniquement au stade des demandes de financement auprès des différentes collectivités. Cette décision de piste d'athlétisme sera bien évidemment prise lorsqu'on aura le retour des financeurs et le montant total des finances que l'on pourra obtenir.
Merci Olivier. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? On peut adopter les demandes de subvention? Pas de vote contre? Abstention? Unanimité? Une subvention exceptionnelle pour l'association, on se rencontre. Je vais laisser la parole à Jacqueline Mazias, que Hélène Guimau donc, nous représente, je le disais tout à l'heure, la soirée des déserts médicaux.
L'association On se rencontre a été créée le 28 février 2023 et souhaite pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'isolement et de troubles cognitifs. Elle a pour volonté d'intervenir sur le territoire en faveur des couples aidants aidés et de compléter l'offre existante. Elle intervient notamment sur le plan social, mobilité, échange intergénérationnel, renforcement des liens sociaux, de la santé, maintenir les compétences cognitives, prévenir et lutter contre la souffrance psychique, stimuler le bien-être et auprès des aidants, apporter un soutien qui s'inscrit dans la durée. Afin d'encourager et de soutenir l'association dans son lancement, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros. Il est proposé à mesdames et messieurs les conseillers municipaux de bien vouloir se prononcer sur cette proposition.
Merci Jacqueline. Remarque, pas adopté, pas de vote contre, d'abstention, unanimité. L'épongiste du POER, subvention de 500 euros, Olivier.
Oui, donc c'est un oubli de l'association dans le cadre des demandes de subvention annuelles. On avait précisé que si le dossier arrivait, on verrait cette subvention, donc le dossier est arrivé. Les POGIS du POER donc souhaitent obtenir une subvention de 500 euros pour leur fonctionnement annuel. La question a été présentée à la Commission des Finances le 13 juin. Donc il vous est proposé d'approuver le versement de cette subvention.
Merci. Pas de questions? Pas adopté? Des votes contre? Abstention? Unanimité? Une convention entre la ville de Carhaix et le conseil départemental du Finistère pour l'initiation à la langue bretonne, Marie-Antoinette Thirou.
le Conseil départemental du Finistère œuvre en concertation avec l'Éducation nationale afin que les enfants carésiens à des écoles publiques qui ne poursuivent pas une scolarité bilingue puissent bénéficier le plus largement possible d'une initiation à la langue bretonne dans le cadre du temps scolaire. Le Conseil départemental du Finistère finance le dispositif par l'attribution de subventions aux associations qui assurent les prestations. Les interventions sont organisées et supervisées par la Direction académique des services de l'éducation nationale qui a recours à des animateurs satisfaisants aux compétences pédagogiques et linguistiques requises par l'inspection académique. Les communes de Bretagne contribuent au financement en apportant une participation au département. La présente convention est conclue pour une durée de 3 années, c'est-à-dire de 2021 à 2024. Pour l'année scolaire 2023-2024, le volume d'intervention proposé est de 4 heures hebdomadaires, réparties à parts égales entre les écoles Persivien, Kervin et ULA. Ainsi, la participation financière restant à charge pour la ville de Carhaix serait de 2 800 euros sur un coût total de 7 200 euros. En cas de changement des conditions définies ci-dessus pour les années scolaires suivantes, le Conseil départemental sollicitera l'accord de la commune. Les modalités sont précisées dans la convention. Et la question a été présentée à la Commission des finances.
Merci, Mme Antoinette. Pas de remarques, de questions ? Pas adopté aussi ? Pas de vote contre ? D'abstention ? Unanimité. Convention avec le centre ECA cette fois-ci. Olivier.
Une convention d'occupation du domaine public a été signée avec l'association Centre ECA de Carhaix en juillet 2021 pour définir les conditions générales de mise à disposition d'une dépendance du domaine communal situé Vallée de Lierre pour une durée de 3 ans. Il est nécessaire de la mettre à jour afin de prendre en compte quelques modifications de fonctionnement. Le montant de la redevance par hectare reste inchangé. Une concertation a eu lieu avec l'association pour prendre en compte ces évolutions. La nouvelle convention est établie pour une durée de 3 ans, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026. Il est donc proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention ci-jointe et autoriser le maire à la signer et toute pièce y rapportant.
Merci Olivier. Pas de remarques ? Vous aussi adopté ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Convention de mise à disposition d'un terrain sur la commune de Treffrin ?
Le club de football de Treffrin est en sommeil et ne reprendra pas d'activité l'an prochain. La municipalité de Treffrin propose à nouveau de mettre le terrain et ses annexes, vestiaires et parkings à disposition de la commune de Carhaix et sera utilisé par les clubs de football carhaisiens afin d'assurer le déroulement des matchs et des entraînements des différentes équipes des clubs. Les modalités de mise à disposition d'utilisation sont précisées dans la convention ci-jointe. Elle est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2023 et donc proposer à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la nouvelle convention à intervenir entre la commune de Carhaix et celle de Treffrin et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et toute pièce y rapportant.
Merci Olivier. Pas de questions ? On peut adopter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Même chose pour Pounevezel.
Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la commune de Carhaix, un terrain de football et demi, donc... C'est un demi parce que c'est un petit terrain, c'est deux terrains en fait. La parcelle de terrain cadastrée, section ZR80, d'une contenance de 16 000 m2, ses annexes, vestiaires et parking stabilisés, dénommé terrain de football de Plounévezel, situé à Kerskamon, à Plounévezel. Il est proposé d'étendre l'utilisation de ces équipements de la manière suivante. Utilisation du terrain de football. La parcelle et les annexes mises à disposition de la commune seront utilisées par les clubs de football de Carhaix afin d'assurer le déroulement des matchs et entraînements des différentes équipes des clubs. Un inventaire du matériel mis à disposition de l'occupant sera établi par la commune de Plounévezel. Le terrain sera utilisé uniquement le samedi. En cas de forte intempérie et de risque de dégradation importante de la pelouse, l'utilisation du terrain ne pourra se faire qu'avec l'accord de la mairie de Plounévezel et du service des espaces verts de la commune de Carhaix. Utilisation du parking stabilisé. Les surfaces stabilisées ainsi que les vestiaires mis à disposition de la commune de Carhaix seront utilisés par la commune de Plounévezel, pardon, c'est une erreur, seront utilisés par les clubs de pétanque de Carhaix, notamment pendant la période estivale de juin à août. Les modalités de mise à disposition et d'utilisation sont précisées dans la convention ci-jointe. La présente convention est consentie pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2024. Il est proposé donc à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de bien vouloir approuver la convention à intervenir entre la commune de Carhaix et celle de Plounévezel et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et toute pièce s'y rapportant. Je voudrais juste préciser que sans les conventions que l'on passe avec les communes de Treffrin et de Plounévezel, on aurait du mal à faire jouer l'ensemble des équipes des clubs de carré. Aujourd'hui, on est à peu près à 500-550 licenciés entre les deux clubs. Et l'année prochaine, rien que sur les équipes de foot à 11, on aura entre 16 et 18 équipes de foot à 11 à faire jouer, sans compter évidemment le foot à 9 avec les petites catégories. Donc on remercie les communes avoisinantes de nous mettre à disposition des équipements. Je l'avais déjà dit l'année dernière et je le redis, je regrette juste que les écoles de foot dans ces communes disparaissent et que toutes les écoles de foot viennent sur nos clubs carréziens. J'aurais préféré, moi, que l'ensemble de ces petites communes puissent maintenir les écoles de foot et que les meilleurs joueurs viennent jouer sur nos clubs carréziens et que l'ensemble des communes puissent avoir ses propres écoles de foot. Hélas, aujourd'hui, le fonctionnement est un peu différent. Et donc, on a des conventions obligatoires, du coup, avec ces clubs pour pouvoir faire jouer l'ensemble des équipes carréziennes.
Merci, Olivier, pour l'explication. Est-ce qu'il y a d'autres remarques qu'on peut adopter? Des votes contre? Abstention? Unanimité? Convention d'équipement sportif avec Tennis Club de Carré.
Lors de sa séance du 29 juin 2022, le conseil municipal a approuvé une convention d'utilisation et d'animation d'équipements sportifs avec le Tennis Club de Carré pour les terrains de tennis extérieur, rue de la Piscine, et les deux terrains de tennis couvert, clubhouse, vestiaire sanitaire, local de rangement, salle de tennis, rue du Docteur Mingui. Il est nécessaire de mettre à jour cette convention suite à la récente réfection des cours extérieurs de tennis de Persivien en gazon synthétique. Ces travaux vont permettre la mise en œuvre de nouvelles animations auprès des adhérents jeunes et adultes, notamment les rencontres jeunes, jeux 7 et matchs, école du tennis, des tournois, multichamps, certaines compétitions par équipe et individuelles et des journées de découverte. La présente convention fixe les conditions d'utilisation et d'animation des deux équipements sportifs et de préciser les créneaux prévisionnels qui sont réservés aux utilisateurs signataires et les créneaux en accès libre. L'utilisation des équipements sportifs du propriétaire est définie suivant des plannings annexés à cette convention. Ces plannings différencient les périodes hivernales et estivales et permettent d'identifier les créneaux en accès libre et sont renouvelables tous les ans. La présente convention est conclue pour une durée d'un an, année de fonctionnement test. Le bilan entre l'utilisateur et le propriétaire sera réalisé à l'échéance d'un an. En fonction de ce bilan, la convention sera reconduite à l'identique pour une durée de 4 ans ou sera ajustée. Ce projet a été présenté à la commission des sports le 5 avril. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'approuver la convention si annexée, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint chargé des sports à la signer. Donc préciser aussi que ça a été évidemment travaillé avec le tennis club et qu'aujourd'hui, avec l'ouverture depuis maintenant un mois des cours extérieurs, on a une fréquentation très très importante sur les cours extérieurs. Donc ce qui prouve qu'il y avait un intérêt évidemment à les refaire. Et l'intérêt de cette convention, c'est que les gens qui viennent régulièrement sur les cours puissent au final adhérer au tennis club puisque ça sera financièrement pour eux plus intéressant de prendre une adhésion. Il y a différents tarifs au tennis club. Donc voilà, c'est un peu l'idée de promouvoir le tennis à la fois pour la ville et à la fois en partenariat avec le tennis club. Je précise aussi que les cours, du coup, avec cette nouvelle organisation, les cours couverts du Stade Charles-Pinson sont aussi réservables alors qu'avant ce n'était pas le cas.
Merci Olivier. C'est des questions. On peut adopter des votes contre? Oui. Oui. Il faut sortir, ouais. Ah oui, voilà. Si maintenant. Et on demandera aussi pour la question suivante à Rémi L'Hôpital de ne pas participer au débat et de sortir dès le début de la question. Donc pour le vote, car Robert est sorti, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité? On peut passer à la convention d'occupation pour RMN.
Voilà, donc...
Attends, on va demander à Rémi L'Hôpital de sortir d'abord.
En fait, tu m'as dit que c'est ça, c'est l'ARCOM.
L'ARCOM. Donc, c'est une convention d'occupation temporaire du domaine public relative à l'installation et exploitation d'antennes radiophoniques par l'association Comité d'animation de Bretagne, RMN, sur le toit de l'espace Galmore. Donc, afin de respecter les normes de l'ARCOM et de couvrir la commune de Carré, l'association donc, souhaite installer des antennes sur le toit du Glenmore. Donc on a une convention qui fixe les droits et devoirs de chacun, et en contrepartie de l'avantage qui lui confère son droit d'occupation, donc des emplacements, l'occupant s'engage à verser à la collectivité une redevance annuelle de 1100 euros. S'il y a des charges exceptionnelles, ça sera à eux de prendre en charge. C'est une convention qui est conclue pour 5 ans. Il vous a donc d'approuver demander de bien voir approuver à intervenir, d'approuver la convention à intervenir entre la commune et RMN.
Merci Olivier. Pardon ? Oui, merci Daniel. C'était pas de questions ? Pas adopté ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Le rapport annuel concernant l'eau potable, Jacqueline, en donnant les grandes lignes évidemment, hein, pas rentrer dans le détail.
Oui, par délibération 2016-96 du 14 novembre 2016, la ville de Carhaix a délégué à la société Veolia Eau l'exploitation du service de distribution d'eau potable et a approuvé les termes du contrat correspondant, établi pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2017. Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire remet chaque année à l'autorité délégante un rapport retraçant l'exécution qualitative, technique et financière du service. L'examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante de cette autorité qui en prend acte. Voilà, donc vous avez eu ce rapport, je pense que vous avez pu en prendre connaissance, il fait 141 pages. Il reprend les éléments essentiels de l'année 2022, c'est-à-dire le contrat, les chiffres clés, les indicateurs réglementaires, le prix de service de l'eau, les consommateurs et leur consommation, le patrimoine du service et ses performances.
Voilà, merci.
Donc il est proposé de prendre simplement acte de ce rapport.
On prend acte, on poursuit par
l'eau potable.
L'eau potable.
Alors là, il s'agit de l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 2022. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable, ce qu'on appelle le RPQS. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En l'application de l'article D2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu à l'article L213-2 du Code de l'environnement, le CISPEA. Ce CISPEA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits en annexe 5 et 6 du CGCT. Les indicateurs, en outre, doivent être saisis par voie électronique dans le CISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Donc alors, les grandes lignes de ce RPQS sont les suivantes. Nous sommes en DSP via Veolia jusqu'en décembre 2028. Il y a 4563 abonnés, donc en augmentation de 0,8%. 1 198 459 mètres cubes qui ont été vendus aux abonnés, soit une progression de 2,8%. Les consommations sans comptage sont en baisse de 5% et les volumes de services sont en baisse également de 1,6%. Le volume consommé autorisé a progressé de 2,6% pour atteindre 1 229 879 mètres cubes et notre linéaire de réseau atteint les 127,6 km. Les branchements étant désormais enlevés du linéaire. En page 10 du document, vous avez le détail des prix pour la part collectivité et la part du délégataire, ainsi que les taxes et les redevances, dont celle de l'Agence de l'eau. En page 11, le prix de l'eau potable pour 2022 était de 2,47 euros par mètre cube contre, et 2,57 en 2023. En page 12, vous avez les recettes de la collectivité qui s'élèvent à 834 758 euros et qui permettent donc de financer nos travaux de renouvellement de réseau d'eau potable ou alors les travaux d'extension de réseau. En page 13, tous les prélèvements de qualité d'eau sont conformes en 2022, que ce soit en bactériaux ou en physico-chimie. En ce qui concerne notre indice de connaissance de gestion patrimoniale, il s'élève à 106. En ce qui concerne le rendement de réseau, il est encore en amélioration et atteint désormais 87,2% alors qu'il était à 85,3% en 2021. Donc on est bien au-dessus des seuils réglementaires, hein, mais nous continuons à améliorer nos performances de réseau en renouvelant nos réseaux. Voilà. Et on a renouvelé 6 km ces 5 dernières années. Voilà pour l'essentiel de ce rapport sur l'eau potable.
Dont acte également.
Donc il est... Pardon ?
Dont acte, c'est ça ?
Non, là il faut... Donc il est proposé de l'adopter, de décider de transmettre aux services préfectoraux cette délibération, de décider de le mettre en ligne, le rapport et sa délibération, et de décider de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le CISPEA.
S'il y a des questions, des remarques, on peut adopter, des votes contre, abstention, donc contre, deux contre, l'assainissement collectif, Jacqueline.
L'assainissement collectif, donc là c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est la présentation du rapport annuel 2022 du délégataire. Donc je ne vais pas refaire la lecture, il faut juste changer les termes par assainissement collectif. Il y a un peu plus de... C'est un document un peu plus lourd, parce que celui-là fait 172 pages. Voilà, il suffit simplement de prendre acte de ce rapport.
Ok, on prend acte. Et l'adoption du rapport sur le prix de la qualité du service public d'assainissement collectif aussi.
Pour le rapport, donc c'est la même chose effectivement que pour l'eau potable, enfin au niveau de la délibération. On est en contrat aussi avec Veolia en DSP jusqu'au 31 décembre 2028. Il y avait 4034 abonnés à fin décembre 2022. Les volumes facturés sont en baisse de 3,8%. Et ils sont de 1 450 807 m3, dont quelques volumes en provenance de Scrignac et Lafonnier suite au Covid. On a apporté 47 106 m3 qui sont en provenance de Saint-Hermain, Crédin et Le Moustoir, parce que vous savez que la station d'épuration de Carré est aussi reliée à ces communes. Et nous avons des conventions d'autorisation de déversement avec 12 industriels. On a un linéaire de réseau qui est un peu plus faible que celui d'eau potable, puisqu'il est de 89,93 km. Et c'est un linéaire qui est en augmentation aussi. Notre station d'épuration était conforme sur toute l'année 2022. Nous avons produit 796 tonnes de matière sèche de boue que nous avons et nous avons évacué 870,9 tonnes de matière sèche, soit par épandage, soit par compostage. On a évacué un peu plus parce que la période de production ne correspond pas forcément à la période d'évacuation. Donc il ne faut pas forcément comparer les chiffres. En page 9, vous avez les modalités de tarification pour le délégataire, la collectivité, et à la fois pour les matières de vidange et les boues venues des autres stations d'épuration. En page 10, vous avez les tarifications de la ville, du délégataire, et également les taxes et les redevances. La facture eau usée en page 11 est de 3,04 euros par mètre cube. En page 12, les recettes pour la ville s'élèvent à 787 016,49 euros, donc ce qui permet aussi de financer à la fois nos réseaux d'eau usée, nos postes de refoulement et des travaux aussi ou des améliorations aussi au niveau de la station d'épuration. Le taux de desserte réseau eau usée est de 95,82% et on a un indice de gestion patrimoniale qui est à 107. Voilà, et notre système de collecte est jugé conforme, ainsi que la station d'épuration. Et en page 16, sur les 870,9 tonnes de matière sèche, il y en a à peu près 400 tonnes qui vont en épandage, et les 471 tonnes restantes sont valorisées en compostage. Et on avait donc, en 2022, un taux moyen de renouvellement des réseaux de 1,45%, et là, nous avons renouvelé également 6,5% kilomètres de réseau sur les 5 dernières années. Voilà pour l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez pris connaissance certainement du document.
Merci, Jacqueline. Il faut voter, par contre.
Oui. Donc, sur l'adoption de ce rapport, de transmission également aux services préfectoraux de la délibération, de la mise en ligne de ce rapport et de sa délibération sur le site spécifique de Services Eau France et de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le site CISPER.
S'il n'y a pas de remarques, de questions, on peut adopter des votes oui, deux votes contre. Pas d'abstention, merci. Les travaux de rénovation de la déchetterie de Carvoisou avec l'eau potable, Jacqueline.
Par marché, en date de 12 juillet 2022, le CERCOB a lancé un programme de travaux portant sur la rénovation de la déchetterie de Carvoisou à Carhaix. Dans le cadre des sondages et études d'exécution réalisées, il a été constaté la nécessité de remplacer et de renforcer le réseau d'eau potable de la ville de Carhaix qui alimente la déchetterie, l'usine d'incinération du CIRCOM ainsi que le hameau de Carvoisou. En effet, d'une part, le réseau de diamètre 110 mm en PVC raccordé au réseau principal situé route de Melcarhaix traverse les parcelles privées du CIRCOM, notamment à l'entrée de la déchetterie où le projet de rénovation du CIRCOM prévoit la réalisation d'un mur de soutènement. La position du réseau existant n'est donc pas compatible avec la réalisation des travaux projetés. Il ne peut donc pas être conservé en l'état et doit être dévoyé ou remplacé. D'autre part, le diamètre de la canalisation existant limite les capacités de défense incendie du réseau public et du site industriel. Pour répondre aux différents besoins du CIRCOM liés aux travaux de rénovation de la déchetterie, aux conditions d'alimentation en eau potable et de défense incendie des installations industrielles du CIRCOM et des usagers du secteur de Carvoisou, il est nécessaire de remplacer la conduite d'alimentation en eau potable existante en diamètre 110 PVC par une nouvelle conduite en diamètre 160 PVC sur 580 mètres posée en accotement de la route d'accès au CIRCOM. Pour mener à bien cette opération, le CERCOP demande à la ville de Carhaix, qui accepte, de lui apporter son concours pour l'accomplissement de ses travaux, ceci par le biais du marché d'accord cadre à bon de commande de travaux en vigueur en début 2023 avec l'entreprise Toolgot. La convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'intervention de la ville de Carhaix sur cette opération. En contrepartie des prestations réalisées, la ville sera remboursée par le CERCOM à hauteur de 40% du montant total des travaux réglés par la ville, montant hors taxe, le coût de ces travaux étant estimé avant démarrage à 56 095,23 € hors taxe. En termes d'imprévus ou aléas qui nécessiteraient des travaux supplémentaires, le CERCOM s'engage dans les mêmes conditions que celles listées dans les articles précédents à rembourser la ville de Carhaix. La question a été présentée à la commission finance du 13 juin. Après présentation du rapport, il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'accepter les termes de la convention et d'autoriser, de m'autoriser à la signer ainsi que tout document s'y rapportant.
Merci Jacqueline. Il y a des questions ? On peut adopter ? Oui ?
Pour savoir à quelle date on va pouvoir réutiliser la déchetterie.
Oui, alors Gwenny Keller n'est pas là, parce qu'il est aussi le directeur du CERCOM.
Beaucoup de gens se posent la question.
Oui, il y a du retard, il n'y a pas de communication. Ah oui, c'est ça. Mais là, c'est bon, c'est régularisé. On espère que dans les prochains jours, mais bon, on ne va pas annoncer de... Je vais demander après de ne pas souligner la date, parce qu'on va regarder au plus près. Mais on espère que ce sera dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je ne voulais pas signaler de date parce que les gens vont se précipiter là-bas tant que la déchetterie soit ouverte. Donc, pour l'instant, il y a eu du retard, hein, il y a eu un problème de maîtrise d'œuvre. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut adopter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Enedis, Jacqueline ?
C'est une convention de servitude sur un terrain communal à Carhaix-les-Dents, convention et acte notarié. Dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau poste de refoulement à Carhaix-les-Dents, une extension du réseau électrique doit être créée au travers de la parcelle où est implanté l'ouvrage d'assainissement dans les conditions suivantes. Implantation d'une ligne souterraine de 400 volts dans le secteur de Carhaix-les-Dents, parcelle cadastrée, section AM numéro 393, boulevard Jean Moulin. Afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation, Enedis a sollicité l'étude des notaires d'habilitation de Carhaix afin d'établir une convention bipartite ainsi que les actes notariés portant sur l'installation électrique située sur la parcelle de la commune. La question a été présentée le 13 juin. Et il est proposé à mesdames et messieurs les membres du Conseil d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention bipartite ainsi que les actes à passer avec Enedis en étude des notaires de la visitation de Rennes pour les travaux d'implantation d'une ligne souterraine de 400 volts sur cette parcelle cadastrée AM 393 et donner tout pouvoir au maire ou l'adjoint délégué pour la mise en œuvre de cette décision.
Merci. Des questions ? Adopté ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité. L'approbation du périmètre de l'ORT, Jacqueline.
Il y a deux conventions. Donc il est rappelé que le Conseil a accepté de signer avec Enedis une convention de servitude pour l'implantation de postes de transformation dans le secteur de Poulerie ou terrain des sports, parcelle cadastrée, section B 974, dans le secteur de la rue de la Fontaine-Lapique, parcelle cadastrée AN 1053, dans le secteur de Stangère, parcelle cadastrée A62. Les travaux sont réalisés dans les parcelles susvisées dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique. Afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation, Enedis a sollicité l'étude des notaires de la visitation de Rennes afin d'établir les actes notariés portant sur les installations électriques sur ces parcelles de la commune. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du Conseil de bien vouloir autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les actes à passer avec Enedis en l'étude des notaires de la visitation de Rennes pour les travaux d'enfouissement de lignes aériennes ou d'implantation de postes sur les parcelles cadastrées B974, AN1053, A62 et donner tout pouvoir au maire ou l'adjoint délégué pour la mise en œuvre de cette décision.
Merci, Jacqueline. On peut adopter, pas de vote contre, d'abstention, unanimité. Donc on peut passer désormais à l'ORT.
Dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, la ville de Carhaix souhaite mettre en place une opération de revitalisation du territoire. L'ORT est un contrat intégrateur unique, programmatique et évolutif, reposant sur le projet global d'un territoire. Elle est destinée à prendre en compte l'ensemble des enjeux de revitalisation de centre-ville, modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux, lutte contre la vacance et le logement indigne, réhabilitation d'immobilier de friches urbaines, valorisation du patrimoine bâti, densification de tissus urbains, le tout dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. Concrètement, l'ORT est créatrice de droits et s'accompagne de mesures pratiques pour favoriser la rénovation de l'habitat, l'investissement locatif, renforcer l'attractivité commerciale dans les centres, autoriser les expérimentations ou encore faciliter les procédures et interventions sur des bâtiments en état d'abandon. Ceci dans un périmètre préalablement défini dans le centre-ville. Ces mesures peuvent consister en la mise en place du dispositif de Normandie dans l'ancien, des fiscalisations pour les bailleurs investissant dans les quartiers dégradés, la mise en place des permis d'innover ou permis multisites, l'instauration d'un droit de préemption dans les locaux artisanaux, de dispense d'autorisation d'exploitation commerciale des projets s'implantant dans le périmètre, etc. L'ORT se traduit par une convention entre la ville, pour Air Communauté, la région Bretagne et les services de l'État qui précise le périmètre d'intervention. Celui-ci a fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal le 19 décembre 2022. Ce premier périmètre avait été présenté aux services de l'État qui ont demandé à ce que celui-ci soit quelque peu modifié. En effet, certains grands bâtiments commerciaux avaient été intégrés dans le périmètre. Or, ils auraient pu, dans ce cas, être exemptés de passage en CDAC en cas de travaux, et notamment pour la division du bâti en plusieurs cellules commerciales. Phénomène qui se produirait au détriment du centre-ville de Carhaix avec le développement des commerces en périphérie et qui serait à l'encontre du projet politique du SCOT qui est de recentrer les commerces en centralité. Le nouveau périmètre a donc été dessiné en raison des nombreux projets qu'il comprend et de la concentration de certains enjeux, la résorption commerciale, de la vacance commerciale, pardon, nécessaire, amélioration de l'offre de logement, amélioration du cadre de vie, dynamisation de la centralité, amélioration des entrées de ville. Le nouveau périmètre travaillé avec les services de l'État et suite au bureau communautaire est donc le suivant. Donc on a un petit peu modifié ce périmètre en le réduisant, notamment en enlevant la rue Victor Hugo, une partie du secteur Salvatore Allende et en excluant la rue Charles Le Goff. Voilà, donc il est proposé à mesdames et messieurs, les membres du Conseil, de se prononcer sur ce nouveau périmètre proposé.
Merci, Sokine. Est-ce que des questions, des remarques? On peut adopter également. Des votes contre, abstention, unanimité. Rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. Je vais laisser le débat s'il y a des questions, des remarques sur ce rapport, simplement pour dire ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, parce que vous avez bien vu la presse a déjà rédigé plusieurs articles sur le sujet. Il faut dire qu'en premier lieu, la Chambre régionale des comptes constate la bonne gestion de la ville de Carhaix, bonne gestion financière. Pour le reste, beaucoup d'éléments à charge, mais ça, on s'en doutait quand on a reçu le magistrat qui est venu ici discuter avec nous. On a bien vu dans quel état d'esprit il était, c'est un rapport politique qu'il a commis, et beaucoup d'interprétations, beaucoup d'avis qui sont divergents, qu'on ne partage pas avec lui. D'ailleurs, on se demande si c'est vraiment dans le rôle de la Chambre que d'agir ainsi. Et puis également parfois des analyses qui ne sont même assez stupéfiantes. C'est de retrouver la page rapidement, mais je crois que c'est la page 33 sur la politique culturelle, par exemple, dont il nous explique que cette politique culturelle mériterait une meilleure coordination et une meilleure cohérence. Enfin, quand on connaît la qualité de la politique culturelle, je félicite Serge et le directeur des affaires culturelles de la ville, Pierre Sibéril, pour tout ce qu'il a entrepris. Je crois qu'il faut quand même être assez gonflé pour arriver à ce genre d'analyse sur la politique culturelle de la ville. Mais c'est un des exemples, il y en a tellement que voilà, c'est un document à charge. Voilà, on en prendra acte, comme on dit. Et puis je vais mettre celles et ceux. Il y aura deux points sur lesquels je pourrais revenir si vous voulez pour donner des explications. Et autrement, j'ai évidemment le débat se dérouler s'il y a des remarques sur ce rapport. Jérôme Ilinec.
Effectivement, donc la Chambre régionale des comptes est une juridiction indépendante. Son rapport sur votre gestion financière met en lumière ce que nous dénonçons. Les conclusions de ce rapport ne font qu'accentuer les inquiétudes que nous pouvons avoir quant à la transparence et à la légitimité de vos pratiques de gestion. Ces révélations troublantes mettent en lumière une série de décisions discutables qui ont gravement compromis la situation financière de notre commune. Selon le rapport, vous avez fait preuve d'un manque de rigueur inquiétant dans la gestion des finances de notre commune. Le rapport souligne notamment des dépenses inconsidérées et injustifiées qui ont entraîné un déséquilibre budgétaire préoccupant. Plusieurs manquements ont été démontrés, mettant en évidence une possible collusion entre certains membres de la mairie et des prestataires de services. Ces pratiques opaques ont causé préjudice aux finances publiques de la commune et fragilisé la situation économique. Une autre problématique relevée par le rapport concerne l'absence de transparence en matière de communication financière. Les informations relatives aux dépenses et aux contrats passés par la municipalité ont été visiblement délibérément dissimulées aux citoyens. Cette opacité a non seulement engendré un sentiment de méfiance au sein de la population, mais également érodé la confiance nécessaire entre les élus et les contribuables. Une gestion financière saine et transparente est pourtant essentielle pour assurer le bon fonctionnement d'une commune et garantir que les fonds publics sont utilisés de manière responsable. Le rapport met également en lumière des investissements hasardeux qui ont non seulement entamé les réserves financières de la commune, mais ont également compromis sa capacité à répondre aux besoins réels de ses habitants. En conclusion, le rapport de la Chambre régionale des comptes est accablant. Il révèle une série de pratiques financières alarmantes, allant de dépenses inconsidérées à l'absence de transparence, en passant par des investissements hasardeux. Je vous invite donc à tirer les leçons de ce rapport et afin de rétablir la confiance avec les Carréziens.
Bah, heureux d'entendre le son de votre voix, parce que en reprenant à votre compte l'ensemble des remarques du rapporteur, qu'on conteste formellement, vous dites exactement le contraire de ce que dit ce rapport. Ce rapport écrit clairement que la gestion financière de la ville est bonne. C'est écrit, d'ailleurs la presse l'a aussi repris, c'est même dans les titres de ce rapport de la ville, où la gestion comptable et financière de la ville est considérée comme bonne. C'est écrit noir sur blanc par le magistrat. Donc vous allez chercher là à nouveau, comme je disais, on vous entend peu, mais uniquement pour essayer de relever des choses qui sont issues de ce rapport, dont on sait qu'il est un rapport à charge. Alors sans doute que vous avez dû y participer d'une manière ou d'une autre, c'était votre droit, hein, puisqu'on voit bien qu'il reprend surtout des propos, mais pas des propos, plutôt des malveillances de quelques-uns de l'opposition. Bon, j'entends révélations troublantes. En quoi des révélations troublantes? Vous voulez parler de points qui, dont je peux vous donner lecture, donc, qui a été fortement exploité donc, à des buts de politique politicienne pour essayer de nous nuire. Je pense au premier, qui est la gestion du bar du camping municipal de Carré. Hein, c'est un des deux points, hein, parce que c'est deux points dits litigieux aujourd'hui. Et ce qui est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes est faux. Il n'y a pas de favoritisme dans le cas de l'attribution de la gestion du bar du camping à Mme Coquille, la gérante actuelle. Il y a bien eu appel d'offres et une mise en concurrence, publication d'une annonce dans la presse. La gérante y a répondu comme trois autres candidats. Elle a été convoquée, elle est passée devant un jury et a été retenue par décision d'ailleurs à l'unanimité du conseil municipal. Alors ce qu'on peut appeler opaque ou contestable, quand c'est présenté avec l'ensemble, c'est en 2018, lors du renouvellement de la convention. Non, c'est pas noté dans le rapport, c'est écrit dans un article de presse à charge de quelqu'un qui a l'habitude d'écrire sur Carré et qui n'est pas ici, on se félicite d'ailleurs. Non, mais je termine le propos. Non, c'est pas vrai. Non, mais Serge. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites, c'est faux. C'est faux parce que, donc je termine mon propos, c'est faux ce que vous dites, Madame Zayed. Donc d'abord, à l'unanimité... Mais ce que... Mais bon...
Mais moi, écoute, que ce soit une technique, non. Ça m'est complètement égal.
Non mais... C'est scandaleux. Bah, je comprends mieux pourquoi il y a un souci avec un magistrat si c'est des gens comme vous qui l'a rencontré ou qui avaient essayé de l'influencer. Enfin, il y en a d'autres qui ont été appelés à rencontrer des associations qui ont pour but de... Parce que... J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc je répète que... Mais écoutez-moi aussi, vous n'allez pas me couper tous les 30 secondes. Je vais faire aussi ma déclaration et vous la ferez après si vous le souhaitez. Mais je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi, parce que tout simplement, il y a eu mise en concurrence, il y a eu annonce, compte rendu d'entretien de jury, il y a eu aussi, contrairement à ce que vous dites, parce que c'est faux, il y a eu aussi ici le dépôt du chiffre d'affaires annuel fait à la mairie. C'est qui est écrit dans cet article suite. Non mais attendez, s'il vous plaît, on demande la parole. D'abord, il y a le respect aussi entre les élus. Donc vous laissez parler et je vous laisserai parler. Hein, parce que ce que vous dites est faux. Et vous mettez gravement en cause l'honneur de madame, de la gérante du camping. Et je ne vous laisserai pas c'est-à-dire son honneur. Elle reproche également au magistrat ce qui est écrit dans ce document, parce que ce n'est pas vrai. Et elle verra aussi quelle suite à donner à cette affaire. Mais elle dépose tous les ans le chiffre d'affaires qu'elle effectue durant la période d'été dans son bar dont elle a la gérance. Et toute la procédure a été respectée. Il est vrai aussi également en micro-entreprise. La convention a été renouvelée à deux reprises. Et d'ailleurs, j'étais absent pour maladie, hein, vous savez, et je n'ai pas participé ni au jury ni au conseil lors de la dernière mise en gérance de l'établissement. Moi, je trouve qu'on cherche vraiment non seulement à lui nuire, alors qu'elle fait un excellent travail. Tous les Carésiennes et tous les Carésiens... Non, mais Siti, vous essayez de la salir. Vous essayez de la salir. Les propos que vous avez tenus, c'était des propos salissants. Si, elle n'a pas de comptabilité, pourtant tous les commerçants savent. Elle a une comptabilité, et elle a également... Mais je conteste formellement ce qui est écrit dans ce rapport. Voilà. On verra la suite, comme vous dites. Et donc, moi, je trouve que jeter son nom aujourd'hui et son excellent travail en pâture est sans aucune considération. Je trouve que c'est anormal et c'est scandaleux. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. C'est peut-être votre pratique, mais ce n'est pas la nôtre. En tout cas, pour la deuxième chose qui concerne le terrain communal Allée des Peupliers. Les prix du terrain a été fixé en conseil municipal en 2016. L'estimation des domaines a été faite en 2015, donc 1 à 2 ans avant la première acquisition. Sans que Cyril Azerwal et Mathilde Froidec, qui est donc les deux personnes qui ont acquis le deuxième terrain, n'aient fait part d'ailleurs à ce moment-là de leur intention d'être acquéreur. Il y avait deux lots. Le prix des domaines était de 27 euros. Le premier lot a été vendu à une Carésienne. Je ne citerai pas son nom, mais vous pouvez retrouver dans les délibérations de l'époque. Et je suis fier avant que des jeunes Carésiennes s'installent sur notre commune. Le prix des domaines donc était de 27 euros. Et le premier lot donc a été vendu à une Carésienne en mars 2017, donc quasiment 2 ans après l'estimation des domaines, à 26 euros, soit 4%, c'est-à-dire 1 euro de moins que ce que préconisent au maximum les domaines en raison de la construction d'un lotissement, donc de 30 maisons à proximité, et du passage d'une voie future qui desservira ce lotissement. Donc il y a eu un dégrèvement de 1 euro qui a été accordé par rapport au prix d'estimation des domaines. Lorsqu'on déroge d'ailleurs, il faut motiver la décision. Mathilde Froidec et Cyril Azerwal ont acheté ce terrain pour donc 26 euros. Pour que vous sachiez, ils étaient les deuxièmes acquéreurs. Ça veut dire que le prix n'a pas été fixé en condition ou en raison de l'acquéreur. On est bien clair. Et celle qui maintenant vient être reprochée par un tour de magie en expliquant qu'il y aurait justement un prix qui aurait été adapté, ce qui est faux. Je répète aussi je n'ai pas pris part au vote en conseil municipal, que la délibération prise à l'époque en témoigne, et que la vente a été aussi votée à l'unanimité. Là aussi, je me demande que souhaite-t-on faire croire qu'il n'y a pas droit, du favoritisme, ou plutôt salir les gens. Et c'est plutôt ce sentiment que j'ai. Voilà. C'est une volonté de salir les gens, et c'est inacceptable. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou
Oui, concernant ce rapport, il faut quand même rappeler que la Cour régionale des comptes est un organisme officiel qui a pour but de voir si les deniers publics, donc nos impôts, sont correctement dispensés dans les communes. Il n'y a pas que dans les communes, puisque les comptes, même des associations, même au niveau national, la Cour des comptes intervient. Donc la première des choses, c'est un organisme indépendant, en vrai, et qui a pour but de regarder si tout se fait dans la légalité. Or, ce rapport note plusieurs irrégularités, voire des manquements à la législation sur la gestion des communes. Donc c'est un constat. C'est un constat lequel, vous l'avez dit dans votre lettre en date du 25 mai que vous avez écrit à la Cour des comptes régionale, vous dites que vous prenez acte et que déjà vous avez pris en compte les recommandations. Donc, si vous avez pris en compte les recommandations de la Cour des comptes, c'est qu'ils étaient justifiés. Ça, c'est un premier point. Bon, un deuxième point, c'est que nous avons eu une commission des finances il y a peu, il y a un mois, ce document, qui était connu, n'a pas fait l'objet de présentation en commission des finances. Donc, c'est pour ça que dans son rapport également, il constate que l'information des élus et des citoyens est à renforcer. C'est tout à fait vrai, puisqu'on est souvent, nous, élus d'opposition, écartés de bien des informations que l'on apprend par la presse. Ça, c'est factuel, hein, c'est pas du n'importe quoi, à commencer par cette commission des finances où ce rapport n'a pas été présenté. Si c'est pas présenté en commission des finances, alors je vois pas l'utilité d'une commission des finances. Donc il y a des choses quand même qui sont à revoir dans la gestion de la commune, c'est ce qui est dit dans le rapport, et remettre en cause les agents qui ont publié, qui ont écrit ce rapport, c'est quand même mettre en doute un petit peu leurs compétences et leur orientation politique. Vous dites que c'est une orientation politique qui est faite. Moi, je ne crois pas. Ils ne font que leur travail. Ils vous donnent des conseils. Nous, on apprend des choses sur ce rapport qui ne nous étonne pas dans outre mesure sur certaines formes de gestion que vous avez. Donc, pour moi, ce rapport n'est pas politique. Il n'est pas à charge puisqu'il reprend des choses factuelles, quoi, vous avez pris en compte. Donc, je vois pas comment il peut être à charge. Voilà. Donc, vous essayez de vous défendre sur cette gestion qui est problématique, de par leur rapport, qui peut être amélioré. Ils vous demandent de l'améliorer. C'est ce que vous écrivez dans votre lettre du 25 mai. Donc, moi, je vois pas pourquoi vous dites que c'est l'opposition. Dans un premier temps, vous dites les oppositions. Donc moi, j'ai jamais reçu qui que ce soit sur cette question. Je ne connais pas ces agents qui sont venus pendant certainement plusieurs semaines regarder les comptes. Bon, je m'aperçois également que dans ce rapport, il est dit que les heures supplémentaires ne sont ni récupérées ni payées, et qu'il y en aurait pour depuis 22 ans, qu'il y en aurait pour 1 000 000 si on devait l'apurer. Donc moi je me demande si, quand on est un homme de gauche, comme vous dites, la première des choses c'est de s'occuper quand même du personnel d'une façon satisfaisante et ne pas laisser ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de choses aussi qui est dit dans ce rapport concernant les DRH, le DGS, donc qui n'ont pas de compétences, qui ne sont pas tout le temps associés aux dispositions prévues par la loi. Donc, moi, je le trouve, il est accablant, comme le dit l'article du journal, le Télégramme. Oui, il est accablant, mais bon, rien n'est parfait dans ce monde. À vous de rectifier le tir et de faire en sorte que la prochaine fois, il n'y ait plus de problème. Mais je crois que ce qui vous embête le plus, c'est le rapport qui est à la Comcom, qui c'est celui-là qui vous embête le plus, je crois.
Moi, rien ne m'embête. Simplement, je n'accepte pas d'entendre des choses qui sont fausses ou qui, parce que le rapporteur de la Chambre régionale des comptes émet des avis qui, pour beaucoup, sont politiques ou qui nous contraindraient à aller vers des politiques qui ne sont pas les nôtres. Nous assumons notre politique. Je pense en particulier à nouveau à la gestion du bar du camping. Il nous impose d'aller vers une délégation de services publics. On ne pourra plus contracter, comme on l'a fait, de la même façon avec quelqu'un à partir de l'année prochaine. Je ne suis pas d'accord. Il y a à peine 5 ans, il y avait personne au camping. Il y avait personne au bar du camping, il n'y avait personne au camping non plus. Et c'est son travail à elle qui a permis de donner réputation et de faire venir du monde Valdelière. C'est le travail du gérant du camping, parce que là il s'agit d'un gérant salarié de la commune, qui parle de la qualité de son accueil, la manière dont il gère l'établissement, qui a permis tous les ans de progresser de 20, 30, 40% dans l'accueil des campeurs. Donc je ne suis pas d'accord, avec la vision qu'a ce magistrat de la gestion de la commune, de la manière dont on devrait mener nos politiques. Il a son avis, il a des orientations politiques, nous avons les nôtres et nous les assumons. Sur le régime indemnitaire peu transparent dont vous parlez, en parlant de la régularisation du temps de travail avec 22 ans de retard, qui représenterait selon la Chambre un coût de 1 million. La réponse a été apportée, hein, comme pour d'ailleurs les 17 recommandations. On en prend acte et compte, parce que voilà, on veut souscrire aussi en partie à du formalisme, comme on disait tout à l'heure. Il faut bien se plier parfois à certaines règles, mais en même temps, le régime indemnitaire ici. Je vous lis ce qui est aussi notre réponse qu'on a fait paraître dans le rapport, qui parfois pour beaucoup d'ailleurs n'est pas intégré au rapport lui-même, au rapport définitif. Le régime indemnitaire, il est issu de l'histoire des deux collectivités et évolue au fur et à mesure des évolutions législatives. Mais afin de ne pas perdre, et c'est le contraire, justement pour ne pas faire perdre dans le cadre d'une politique de gauche que nous assumons et qui est la nôtre, afin de ne pas faire perdre aux agents quand la législation devient plus restrictive. Et là, c'était le cas. Il faut donc converger petit à petit entre les deux collectivités en lissant les choses dans le temps. Donc ce qu'on appelait le NBI, hein, qui ne paraissait pas justifié, concerne en fin de compte, quand on veut généraliser, et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'écrit le magistrat, le NBI ne paraissant pas justifié, ça concerne, vous savez combien d'agents sur 210? 4 agents. Vous parlez d'une histoire. 4 agents sur 210. Et on en tire une conclusion générale en disant qu'il faudrait faire différemment. Donc on veut, nous, en tout cas, faire évoluer les missions, ou simplement, à travers l'interprétation de la règle, par la CRC, par rapport à ce que le service RH a considéré comme un encadrement ou une responsabilité justifiant ces NBI. Par ailleurs, tous les agents sont à 1607 heures annuelles légales depuis plusieurs années. Il n'y a donc aucune irrégularité. Non, c'est l'avis du magistrat, ce n'est pas le nôtre, et nous défendrons, comme je disais tout à l'heure, nous défendons notre politique. Et concernant la communauté de communes, il y a un rapport jeudi, il sera présenté de la même façon, avec débat qui amènera à ce que chacun puisse s'exprimer, dans le respect des élus, mais je ne suis pas d'accord de la manière dont certains sujets sont traités, amenant justement ce que vous souhaitez, à ce qu'il y ait un doute sur la manière dont le bar du camping aurait été attribué. Une copine, dit Martine Zayed, non, je n'étais pas au jury, je n'ai pas influé sur le choix du jury, elle a postulé comme d'autres, et c'est par son travail qu'elle a été retenue les années suivantes, parce qu'elle travaillait très bien, voilà, tout simplement. Et tout comme les terrains de l'allée des Peupliers ont été vendus légalement, sans que d'ailleurs je ne participe au vote. Voilà. Et ça, c'est essayer de salir des gens que d'essayer de dire le contraire. Et je n'accepterai pas cette façon de faire de la politique, dont je disais tout à l'heure, il y a quelques instants également, que certains, on entend leur voix qu'uniquement aujourd'hui, ou quand la manière dont ils font de la politique, c'est toujours plutôt en préférant agir par derrière, dans le dos, quand d'autres passent leur temps à scruter ou à tenter à débusquer la moindre erreur, ne prenant rarement la parole pour expliquer vraiment des idées, pour les expliciter, pour les défendre. Et je veux dire, sincèrement, de manière où vous sautez sur des occasions là pour essayer d'exister, que j'arrive moi, parfois même, et ça va faire sourire certains, à quasiment regretter le temps où on avait Richard Ferrand parmi nous. Oui, oui, tout à fait, parce que même si nous l'avions battu deux fois au municipal de 2001 et 2008, il était devenu ensuite président de l'Assemblée nationale. J'en arrive aussi, moi, à regretter le temps dans les oppositions. Le temps de Jean-Pierre Jeudy, on a été mon partenaire, il était ensuite dans l'opposition, qui était un grand orateur et doté d'une grande culture. Je crois qu'il aurait pu être ministre, il le méritait. Je me rappelle aussi de Daniel Pennec, ancien député, défenseur du pays du Centre-Bretagne, qui avait même engagé avec courage une grève de la faim. Et on avait obtenu satisfaction. D'une certaine manière, ces opposants-là tiraient le débat politique vers le haut, et faisait honneur à notre ville. Moi, je vous inviterais, les deux oppositions municipales, au lieu de donner des leçons une fois tous les 10 ans, à prendre exemple sur ses prédécesseurs et à fixer le curseur de leurs interventions, de vos interventions, à sa juste place, afin d'enrichir vraiment le débat démocratique et donner une image positive de la politique en général et de Carré, qui nous est cher.
Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les anciens... Je connais bien Jean-Pierre Jeudy, c'est vrai que c'est un très bon orateur. Ça a été aussi un très bon maire pour la ville de Carré, qu'il n'a pas eu à avoir les foudres du CRC. Donc,
aussi à l'époque, si vous n'avez pas connu ces périodes-là, c'était pas ici, c'était à Paris, mais aussi, il a toujours eu aussi, comme d'autres. La CRC s'est attaquée aussi régulièrement à la ville de Carré.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît, vous avez demandé à Mme
Zahid.
N'essayez pas de salir quelqu'un que vous venez de monter au pinacle. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce rapport, il est pas à charge. On constate, je le redis, des irrégularités. À vous de corriger ces irrégularités. C'est pas la peine de dire que c'est politique. Sinon, c'est remettre en cause la probité des agents qui ont fait ce rapport. Et là, c'est grave. Là, c'est grave si on remet en cause la probité de ces agents-là. pour leur dire qu'ils ne font pas leur travail correctement, ils le font en fonction de... parce que c'est Monsieur Troadec, on lui en veut et on en met une couche. Non, il y a des illégalités, irrégularités, il y a des textes de loi qui ne sont pas appliqués. On fait en sorte que, à commencer par la première des choses, c'est qu'ils disent que la dénomination de la ville, c'est Carré-Plouguer. Et ça, moi aussi, j'y tiens. Même si je ne suis pas né à Carré, Plouguer, je tiens à ce qu'on dise à chaque fois Carré-Plouguer. C'est ce que je mets dans tous mes documents et dans tous mes courriers. On n'est pas à Carré, on est à Carré-Plouguer. Et beaucoup de nos concitoyens considèrent qu'on enlève trop souvent le Plouguer dans nos communications et autres. Donc voilà. Donc moi, j'en reste là, hein. C'est factuel, hein. les choses sont factuelles. Il y a juste à appliquer les recommandations qu'ils font. Si vous ne voulez pas les faire, eh ben, la prochaine fois, ils vont reconstater la même chose et vous crierez au loup en disant c'est politique. Voilà.
Bah, sur Carré Plouguer, M. Thomas, vous demanderez aussi d'abord aux journaux présents de changer le titre de leur page, parce que toutes les pages sont intitulées Carré. Donc il faut leur demander aussi d'appeler les pages, désormais les pages de Carré Plouguer, comme le nom de dizaines aujourd'hui de commerces, de sociétés, qui portent aussi le nom de Carré, parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, quand on tape le nom de Carré, c'est Carré qui apparaît et non pas Carré Plouguer. Mais bon, après tout, chacun a aussi son avis en la matière. Mais je vous dis que nous continuons à contester ce rapport, la manière dont il a été rédigé, qui est un rapport à charge, qui est un rapport politique. Et concernant les recommandations, évidemment, que sur les 17 qui sont entre guillemets ce que vous appelez des irrégularités, c'est-à-dire le terme exact qui est utilisé dans ce rapport, mais c'est pas pour autant des illégalités. Après, quand vous parlez, quand on dit avec soit le ton de la voix ou soit en appuyant sur le kilo des irrégularités, ça pourrait laisser à penser que ce sont des choses qui sont graves. Non, le trois quarts des choses, ce sont juste des petites perfections, des corrections à apporter, et on suivra ces préconisations. Mais concernant certaines notes, qui ont pour but de salir les personnes comme la gérante du camping ou un membre de ma famille parce qu'elle a acheté un terrain sur Carré dans les conditions légales qu'on vient de rappeler ici il y a quelques instants, je n'accepte pas. Voilà, parce que là, on voit une volonté de nuire. Et moi, je féliciterais plutôt les jeunes, les deux couples qui ont acheté les terrains à Carré, parce que pendant tellement d'années, les jeunes allaient acheter dans les communes voisines, ça a fait leur développement pendant toute une période. Certains ont fait le choix maintenant de chez plutôt sur Carré, et bien tant mieux, mais dans les conditions légales. Qu'on ne vienne pas essayer de nous salir en disant que les conditions n'étaient pas la procédure habituelle ni illégale. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai aussi à dire. Je me défendrai de ça, quelles que soient les décisions que certains pourront prendre ici autour de cette table.
Vous venez de vous féliciter que des jeunes couples achètent des terrains sur Carré. Je vais vous remémorer une histoire qui s'est déroulée route du Moulin-Meur. Un terrain devait être vendu, 900 mètres carrés à peu près, à un couple avec deux enfants. Et la commune a préempté ce terrain qui reste nu aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc voilà. Donc il l'a préempté après discussion avec certains riverains de ce terrain qui ne voulaient pas d'une construction. Voilà. Donc moi, je me ferais bien féliciter d'avoir une maison à côté, puisqu'il y avait ça donnait des jeunes en plus. Ça faisait deux enfants à l'école, ça donnait des jeunes qui avaient un terrain qui était là pour renforcer le nombre d'habitants à Carré. Bon, bah, ça s'est pas fait. Vous avez écouté ces personnes-là, au détriment de certaines autres d'ailleurs qui habitaient à côté. Et on s'était vu à cette époque-ci, et je savais très bien que ce terrain devait être était constructible. Vous avez préempté. Donc là aussi, c'est pareil. On peut s'interroger sur la finalité de cette préemption.
Écoutez, voilà, en tout cas, le débat a eu lieu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Merci. On peut donc prendre acte. Hein, j'imagine que c'est ainsi qu'on doit dire par rapport à ce rapport. Et donc on pourra poursuivre sur les questions de vente d'une emprise de terrain Cargoutois. Mais là, c'est donc Guillaume Manac qui présente les questions en raison de difficultés de Joe Bernard à s'exprimer avec son opération dentaire. Guillaume Manac.
Oui. Les propriétaires de la parcelle cadastrée C69 située écluse de Cargoutois souhaiteraient acquérir une emprise de domaine public jouissant leur propriété. Il s'agit d'une régularisation, une dépendance ayant été construite sur le domaine communal. Cette portion de terrain d'environ 100 mètres carrés ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, une enquête publique ne sera pas nécessaire. Il conviendra cependant de procéder au bornage afin de définir la partie à intégrer dans le domaine privé. Le service de France Domaine, sollicité pour évaluer ce terrain, l'a estimé à 3,50 euros le mètre carré. Les frais de bornage et de transfert de propriété seront la charge de l'acquéreur. Le dossier a été présenté à la commission d'urbanisme le 8 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les conseillers du conseil municipal d'autoriser le déclassement de cette emprise du domaine public communal dans le domaine privé communal, d'autoriser la vente au prix de 3,50 euros le mètre carré, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer toute pièce se rapportant au dossier. Juste pour petite information, il a été marqué dedans qu'une dépendance a été construite sur la parcelle. Elle a été construite précédemment à ce que les propriétaires actuels soient propriétaires, et ils viennent de s'en rendre compte et ils demandent à pouvoir mettre les choses en ordre. Donc il n'y a pas de problème venant de leur part.
Merci Yann. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On peut voter, des votes contre, abstention, unanimité. Intégration des voiries François Lostis et Georges Naïdou dans le domaine communal, oui. Toujours Yann Manac.
Par délibération en date du 19 décembre 2022, le conseil municipal avait autorisé le déclassement et le transfert de propriété des voiries et espaces communs des rues Georges Naïlou et François Lostis dans le domaine communal. Il est précisé que la valeur du bien cédé pourrait être estimée à 1 000 euros, ce prix étant payable par compensation de la reprise des obligations du vendeur pour l'entretien de ces parcelles qui constituent les parties communes du lotissement. Les termes de la délibération du 19 décembre 2022 demeurent inchangés. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis sur ce dossier.
Merci. Des questions?
Cette parcelle, elle est du côté de la rue Hervé Lejeune, c'est ça?
Il y a le plan, ça, vous l'avez là.
Oui, mais tu m'excuseras, mais le plan, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Il n'y a pas le nom de rue, il est tout petit. Mais je pense que c'est ça, puisque j'habite pas loin.
Oui, c'est ça.
Là, il y a eu... à la confluence de ces deux rues, là, il y a un terrain qui est communal et qui n'est jamais entretenu. Il y a des ronces qui sont hautes comme ça. Donc j'espère que c'est ça.
On pourra faire passer les pareuses.
Il n'est pas communal, il est privé. C'est pour cette raison qu'on intègre dans la voirie communale.
Voilà.
C'est pour ça qu'il vient dans le même.
Il y a comment... Une habitante à côté m'a dit qu'elle avait voulu l'acheter, que ça avait été refusé, que c'était communal. Donc, je sais.
Mais c'est ça qui est impressionnant avec vous, M. Thomas, c'est votre interprétation des choses en permanence.
Non, alors, j'ai lu.
On m'a dit que
non,
c'est toujours des rumeurs.
C'est pas des rumeurs.
C'est assez impressionnant.
C'est pas des rumeurs.
Si, c'est des rumeurs. Vous vivez que sur des rumeurs.
Non.
Il n'y a pas d'idée, c'est que des rumeurs. Votre commerce, c'est les rumeurs.
Je demande si c'est ce terrain-là.
C'est celle de M. Ibindek, d'ailleurs, vous les partagez souvent, d'ailleurs, entre vous. Non. Ou même, désormais, dans les tribunes libres du journal municipal, vous avez le même ton. Vous êtes sur l'insécurité, maintenant. Donc, entendez-vous entre vous et faites-nous un communiqué commun. On gagnera du temps.
Mais comme ton, il y a le ton germont et blanc, il y a le ton rouge aussi, c'est meilleur.
Oui. Voilà, donc c'est pas des rumeurs d'une voisine, on ne sait pas.
La question de savoir
pas une question.
Si c'est cette question.
Vous connaissez pas votre dossier, en plus vous auriez pu le travailler avant. Vous connaissez pas votre dossier, on vient de vous expliquer
non,
que c'est.
Je veux savoir s'il est communal ou pas.
Il y a des commissions d'urbanisme aussi qui participent. Également, ce terrain, on vient de vous expliquer, c'est celui qui va devenir communal.
Savoir, c'est tout.
Et s'il n'est pas nettoyé aujourd'hui, c'est pour cette raison-là.
S'il est privé, ce terrain, eh ben, il faut demander à ce qu'il soit entretenu, c'est tout. C'est ça ce que je veux dire. Il faut savoir s'il est privé.
Non, mais la propriété privée, ça reste privé, monsieur Thomas. On ne peut pas intervenir sur un terrain qui ne nous appartient pas.
Ah, si, quand même, on n'a pas intervenir.
On n'a pas le droit, non.
Ou ça s'ajoute d'autres terrains qui est exactement envahi sur le
terrain. Bref, allez, on va pas. Je crois que c'est tellement de mauvaise foi que c'est difficile de. Je vais parler de la qualité de l'opposition, c'est sûr qu'elle est en propos.
Vous dites qu'il faut poser des questions, on n'a pas le droit de faire déclaration, mais on a le droit de poser des questions, et quand on pose des questions,
ça
ne va pas.
Par des rumeurs. On connaît votre façon de procéder. Et les associations carésiennes aussi s'en souviennent dans la dernière concernant le 8 mai. On a bien vu comment vous fonctionniez. Ouais. Bah oui, on voit ça. Vous en avez parlé beaucoup d'ailleurs, ça vous a fait beaucoup de publicité. Pas de la bonne, mais beaucoup de publicité, ça c'est sûr.
Mais vous en faites pas, il y a beaucoup d'anciens combattants qui sont venus voir.
Oh bah oui, sans doute, oui. Pour rigoler.
Non, pas pour rigoler, justement.
Bah écoutez, c'était eux qui organisaient, donc on a déjà débattu, donc c'est eux qui organisaient le 8 mai. Donc, si
vous voulez, hein, c'est pas difficile, hein, ça dure 6 minutes, ça va être vite fait.
Ok. Ça aussi, c'est de la désinformation quand on dit que ça va durer 6 minutes. C'est exactement la même chose, c'est la manière de fonctionner sur la rumeur, sur l'approximation, la désinformation.
Bah, la rumeur, j'étais présent.
Ouais, vous êtes peut-être arrivé en retard, peut-être, hein, parce que ça a duré bien plus de 6 minutes.
Vous pouvez dire ce que vous voulez.
Mais bref. De toute façon, c'est pas vous que j'ai cherché à convaincre. Hein.
Non,
je ne cherche pas non plus d'ailleurs.
J'étais présent,
Ouais. Regardez tout ce qui est mal, essayer de d'épier. C'est ça votre pratique de la politique depuis que vous êtes là.
Vous avez fait des 8 mètres qui ressemblaient vraiment à une série.
D'accord.
Ouais.
Vous nous expliquerez comment on doit faire la prochaine fois. Donc on va continuer. Donc, oui. Donc pour la vente des terrains, si vous êtes d'accord, l'acquisition, intégration des voiries, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, donc unanimité. Le retentement des chemins ruraux, Yann Manac.
C'est pas bon, ouais. La loi 3DS du 20... Il est encore coupé, voilà. Procéder à leur recensement. Il s'agit des chemins affectés au public, mais non classés par la commune en tant que voie communale. Ces chemins ne sont pas la propriété de particuliers, comme les chemins d'exploitation, mais font partie du domaine privé de la commune. Ils ne sont pas inaliénables, contrairement aux chemins du domaine public des communes. Les chemins ruraux sont par exemple susceptibles d'être soumis à la procédure dite de prescription acquisitive trentenaire. C'est-à-dire, si un particulier occupe un terrain et l'entretient de façon publique et paisible, il peut en revendiquer au bout de 30 ans la propriété, et ce après validation d'un juge. Une telle démarche peut conduire un propriétaire à revendiquer la propriété d'une parcelle contenant un chemin rural, ce qui peut conduire à l'interruption de la continuité de celui-ci. Le recensement doit être décidé par délibération du conseil municipal pour lancer la procédure. Il faut ensuite mener une enquête publique, puis par une deuxième délibération, arrêter le tableau définitif recensant les chemins ruraux. Le délai prescriptif sera suspendu entre ces deux délibérations seulement, soit au maximum pour 2 ans. La question a été présentée à la commission d'urbanisme du 8 juin 2023 et il est donc proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'autoriser le lancement de la procédure de recensement des chemins ruraux.
Merci Yann. Questions, remarques ? Un sujet intéressant, je trouve. Merci. Ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Non mais c'est incroyable. Mais c'est n'importe quoi.
Et vous connaissez
les chemins ruraux n'ont rien à voir avec les anciennes voies de chemin.
Mais non.
Non mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais c'est impressionnant.
Ça fait aussi partie des voies vertes, comme on le dit.
Mais non.
Mais non, ça n'a rien à voir avec les voies vertes.
Ça n'a rien à voir
avec les chemins ruraux ancestraux qu'on avait ici en Centre-Bretagne. Mais non, écoutez, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon. Oui, à côté d'un terrain qui n'a pas été occupé. Écoutez, on adopte, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je suis triste pour vous. Je suis triste pour la piètreté des propos de l'opposition. Vraiment, c'est catastrophique. Très bien. Écoutez, on va adopter. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, donc, unanimité. Dénommissons d'un rond-point à Tinévé.
Il est proposé de dénommer le rond-point près d'OCP giratoire de Tinévé. La question a été présentée à la commission d'urbanisme le 8 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de se prononcer sur ce projet.
Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité, la dénomination de Carvoisdoué?
Il est proposé de dénommer le rond-point principal sur la route RD787 menant à la zone de Carvoisdoué, giratoire de Carvoisdoué. En breton, Carvoisdoué. La question est présentée à la commission d'urbanisme du 8 juin 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de se prononcer sur ce projet.
Merci. Vous avez des questions ? On peut adopter ? Pas de vote contre, d'abstention ? Unanimité ? Session de domaine public, 8 impasse de Cornouailles.
Par délibération, date du 9 mai 2022, le conseil municipal avait autorisé la vente d'une portion de domaine public jouxtant le 8 impasse de Cornouailles à Carré-Plouguer, au prix de 3 euros le mètre carré. Cette parcelle, issue du domaine public, doit être déclassée dans le domaine privé communal. Cette portion de terrain ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, aucune enquête publique n'était nécessaire. Il est donc proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'autoriser le transfert de cette emprise issue du domaine public dans le domaine privé communal, préalablement à la vente autorisée par délibération du 9 mai 2022.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut adopter ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité ? Donc, la question de 39 est retirée. Je vous donc on a dit qu'on l'a remplacée par la question d'attribution des lots pour la rénovation des places de la mairie et d'Aiguillon. Donc, je vous donne lecture pour le lot numéro 1, qui est terrassement, voirie, réseau d'hiver. Il y en a en tout... Pardon ? Ah oui, peut-être on peut lui faire une copie. Oui, oui, on va faire une copie, ouais. Mais comme on venait de l'avoir aujourd'hui, cette attribution, on m'a proposé de l'inscrire en plus à l'heure du jour, ce qui nous permettrait de lancer les travaux dès septembre, sinon ça retarde les travaux. On peut vous faire une copie si vous voulez. Est-ce qu'on a la possibilité d'en faire ? Hein, simplement, hein, ce sont les coûts des travaux hein, du lot numéro 1, donc, qui seraient attribués à la société Marc Essa, pour un montant de travaux de 741 420,12 € hors taxe. Et puis le lot numéro 2, les espaces verts, mobilier, maçonnerie, donc pour la somme de 200 400 € TTC, 167 000 € hors taxe. Voilà. Ça permettra de commencer les travaux dès septembre, si on est d'accord. Moi, on vous donne des copies, hein, désolé, je pensais que ça avait été fait. Voilà, c'est notre faute. Voilà, on va vous donner. Est-ce que sur le principe de la déclaration qui vient d'être faite est suffisante pour qu'on puisse adopter ? Je pense que oui, hein, vous donnera le document, mais si on... De toute façon, c'est les chiffres que je viens de vous lire, vous allez retrouver les mêmes éléments. À moins que vous voulez faire un peu de formalisme sur cette question-là aussi, ou ça va ? D'accord, ok. Bien sûr, on va vous donner ça. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des votes ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? Unanimité, merci. Concernant le crématorium, une assistante administrative, Jacqueline Mazéas.
La société Pôle funéraire public de Centre-Bretagne, société anonyme d'économie mixte locale, a été créée en 2006 avec pour objet la réalisation, l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur de tous les équipements se rattachant à l'activité funéraire sur le site de Carhaix, notamment le service extérieur des pompes funèbres, le service de la crémation et le site funéraire. La SAEML, ne disposant pas de moyens en personnel pour assurer sa gestion administrative courante, doit signer un contrat d'assistance administrative avec un prestataire dans différents domaines portant sur la gestion des ressources humaines, l'assistance administrative de la société, l'assistance à la vie sociale et la gestion des interfaces avec ses prestataires extérieurs. Le montant estimé des prestations étant inférieur au seuil obligatoire de mise en concurrence visé à l'article R2122-8 du Code de la commande publique, et dans son guide interne de passation des marchés, elle peut conclure un marché de gré à gré avec le prestataire qu'elle aura retenu. La candidature de la ville de Carhaix avait été retenue en 2007, en 2010, en 2015, en 2019 pour assurer ses missions et un marché avait été conclu à cet effet entre la SAEML et la ville. Le marché de 2019 arrivant à terme le 30 juin prochain, la ville de Carhaix envisage de renouveler son offre de prestation auprès de la SAEML par la conclusion d'un nouveau marché d'assistance administrative et de désigner au sein de ses services une personne chargée de l'exécution de ses différentes missions. En contrepartie de l'exécution des missions d'assistance administrative prévues dans ce marché, la ville sera rémunérée annuellement selon le tableau suivant, je vous laisse en faire la lecture, soit un total de 17 500 € hors taxe jusqu'au 31-12-2026. Le marché prendra effet après cette notification à compter du 1er juillet 2023. En conséquence, il est proposé à mesdames et messieurs les membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché d'assistance administrative proposé par la SAEML du pôle funéraire jusqu'au 31-12-2026 et un montant total de 17 500 € hors taxe. Autoriser Monsieur le maire à signer les pièces administratives correspondantes.
Merci. Donc on a demandé à Daniel Cotten aussi de sortir, oui. Ah oui, il faut quand même qu'il y ait assez de monde pour pouvoir voter. Non, je plaisante. C'est arrivé au département du Finistère. Je crois qu'à un moment, il y avait tellement... je salue la présence du conseiller départemental dans la salle, c'est Guillemot. Il y avait tellement de gens à sortir qu'à la fin, la majorité était arrivée minoritaire au sein de l'Assemblée. Donc, on va demander aux membres du CA de la société mixte de sortir.
Je ne prendrai pas part au vote parce que je travaille au cabinet comptable.
Donc tu sors aussi, alors tu veux bien. Alors, on va dans le formalisme le plus total maintenant. Je crois que pour les élus qui viendront dans les mandats suivants, je crois que ça va être quelque chose. Et comme il y aura des recours, il y aura des plaintes à chaque fois, je souhaite bon courage. Au lieu de débattre d'idées, on en sera à se plier aux injonctions de très quelques hauts fonctionnaires de l'État français. C'est le choix de certains, ce ne sera jamais le mien. Donc je vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ?
Peut-être qu'on lève la main pour compter.
Bah, parce qu'il n'y a pas de vote contre ni abstention.
Ceux qui sont sortis. Oui,
on va essayer de compter les gens qui sont là. Et deux voix pour Pierre-Yves Thomas. Non, non, deux voix, il possède le pouvoir de Laure Boussard. Non, mais non, mais soyez pas agressif en plus. Oui, c'est vrai que c'est assez plaisant qu'on vous dise rien. C'est plus plaisant quand vous parlez, je pense, c'est sûr. Mais donc deux voix, donc il y a, non, c'est deux voix parce qu'il a, une procuration. Oui. Oui. Oui, deux, ouais. Il y a une procuration en plus. Excuse-moi tout le reste. On y arrivera. Merci. Patricia Pensivi va revenir et puis on va aborder les questions sociales, ressources humaines. Merci de pouvoir demander à nos amis de pouvoir reprendre leur place. Prestation d'action sociale, Patricia Pensivi.
Oui, alors autorisation spéciale d'absence, les ASA, accordées au personnel communal au titre de certains événements familiaux. Donc la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié les dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité ou octroyées à l'occasion de certains événements familiaux. Désormais, leur octroi est prévu aux articles L622-1, L622-2, L622-3 et L622-5 du Code général de la fonction publique et prévoit que les fonctionnaires en position d'activité peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans un certain nombre de cas. Ces articles reprennent la règle selon laquelle ces autorisations d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. Ces autorisations spéciales d'absence sont accordées sur demande préalable, soit de plein droit, soit sous réserve des nécessités du service. Les dispositions s'appliquent aux agents stagiaires, titulaires ou contractuels à temps complet ou non complet. Celle-ci d'une durée de 5 jours ouvrables. Lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à 7 jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient dans les mêmes conditions d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de 8 jours qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès. Par dérogation, l'autorisation d'absence accordée à ce titre entre en compte dans le calcul des congés annuels. Un décret qui est en attente fixera prochainement l'ensemble des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux événements familiaux pour les trois versants de la fonction publique, donc la territoriale, hospitalière et État. Dans cette attente, en l'absence de réglementation spécifique à la fonction publique territoriale, c'est à l'organe délibérant de fixer les modalités et conditions d'attribution en tenant compte des dispositions et des plafonds applicables au sein de la fonction publique d'État et après avoir recueilli l'avis du CST. L'avis a été favorable par le CST en date du 26 mai 2023. Il est proposé d'adopter les conditions, les dispositions suivantes. Donc vous avez le tableau donc, du nombre de jours accordés lors d'un mariage, s'il s'agit de l'agent, d'un enfant, du père, de la mère, d'un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, d'un oncle, tante, neveu, nièce, pour les décès. Bon, vous avez le tableau que vous pouvez consulter, les maladies très graves. Les règles générales, elles sont accordées en fonction des nécessités de service, sauf décès d'un enfant. La durée de l'événement est incluse dans le temps d'absence, même si celui-ci survient au cours de jours non travaillés. Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive. L'octroi de délais de route éventuel est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale. L'agent doit fournir la preuve matérielle de l'événement, donc l'acte de décès, certificat médical. L'octroi des autorisations d'absence est lié à une nécessité de s'absenter du service. Ainsi, un agent absent pour congé annuel, RTT, maladie, etc., au moment de l'événement, ne peut y prétendre. Elles ne sont pas récupérables. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'accorder le régime des ASA conformément au dispositif précité pour l'ensemble des agents de la ville de Carhaix, de charger le maire ou l'adjointe chargée des ressources humaines de l'application des décisions prises.
Merci. Il y a des questions, des remarques? Vous pouvez adopter, des votes contre, abstention, unanimité. On poursuit, Patricia?
Oui, alors c'est les prestations d'action sociale, l'adhésion à un organisme qualifié assurant une gestion externalisée du versement des prestations aux agents. Donc c'est le Comité national d'action sociale, le CNAF. Donc, vu le Code général de la fonction publique, tous les articles de la qui sont ci-dessous, donc je ne vais peut-être pas relire entièrement. Après avoir pris connaissance de la présentation du Comité national d'action sociale, donc c'est une association de la loi 1901 à but non lucratif, donc créée en 1967, dont le siège est situé donc à Paris, à Guyancourt, dont l'objet porte sur l'action sociale des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, en retenant que le CNAF est un organisme de portée nationale qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations, aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, dont la liste exhaustive et les conditions d'attribution sont fixées dans le guide des prestations qu'il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, vu l'avis favorable du CST du 26 mai, c'est 2023, bien sûr, concernant le choix d'adhésion à un organisme. Ensuite, il y a eu un CST exceptionnel en date du 16 juin 2023 pour retenir donc le CNAF comme, comme choix pour, donc par rapport à tout ça. Donc, considérant, là, je pense qu'il y a une coquille aussi, c'est que la ville de Carhaix souhaite se doter d'une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses salariés ainsi que l'attractivité de l'établissement à cet effet, adhérer au CNAF à compter du 1er septembre 2023. Cette adhésion donc, est renouvelée annuellement par tacite reconduction. La cotisation d'adhésion correspond au mode de calcul suivant, le nombre de bénéficiaires actifs et ou retraités indiqués sur les listes, multiplié par le montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaires actifs et ou retraités. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal donc de me désigner membre de l'organe délibérant en qualité de délégué élu, notamment pour représenter la ville de Carhaix au sein du CNAF, de faire procéder à la désignation d'un agent parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAF en qualité de délégué, notamment pour représenter le personnel de la ville de Carhaix au sein de l'organisme, faire procéder à la désignation d'un correspondant au sein du service de ressources humaines, relais de proximité entre le CNAF, la collectivité et les bénéficiaires. Sa mission consiste à promouvoir l'offre du CNAF auprès des bénéficiaires, à conseiller et à accompagner ces derniers, à assurer la gestion de l'adhésion. Il convient de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. Ensuite, autoriser le maire à signer tout document afférent à l'adhésion de la ville de Carhaix au CNAF au bénéfice des agents, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction. L'organe délibérant accepte de verser une cotisation évolutive correspondant au calcul précité ci-dessus et d'autoriser le maire à inscrire les crédits correspondant au budget.
Merci Patricia. Moi, j'aurais une question à l'égard des oppositions. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Oui. Pardon?
Oui, c'est vrai.
Attendez, Patricia, juste, si vous voulez laisser la parole à l'opposition, oui. J'entends pas ce que vous dites, M. Thomas, si vous pouvez mettre le micro.
C'est pas Paris, ne mettez pas tout sur le dos de Paris. C'est...
Non, mais en que vous soyez défenseur de Paris, c'est votre droit.
Non, la région Paris.
Vous êtes favorable à la proposition, M. Thomas?
Non, oui.
Monsieur Vinec?
Je m'interroge sur juste un point, c'est que aujourd'hui, on vous fait travailler Carhaix Boutique, notamment, via les chèques cadeaux. Est-ce que ça aura une incidence sur cette action-là, ou est-ce qu'ils peuvent en bénéficier
Votre en fonction de ce que je vais dire ou ce que vous
totalement,
avez dit.
Totalement,
oui. Ok. Donc on a déjà deux voix pour. Moi, j'inviterai les membres de la majorité à ne pas voter. Pardon, M. Thomas. Ah ben, vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous attendez. Ben, il faudra bien que quelqu'un à un moment. On peut pas à la fois tenir deux discours. Vous venez de dire il y a quelques instants, on fera attention, on réécoutera la banque, et vous étiez favorable. Moi j'ai entendu ça, vous étiez favorable. Vous avez entendu la même chose que moi.
Oui.
Vous êtes favorable, mais vous abstenez, quoi.
Écoutez, moi je suis ici, les salariés de la commune sont d'accord
vous êtes pour. Non. Bah si, les salariés de la commune sont favorables, ça a été voté par c'est ça, le CST a voté favorablement. Bah, est-ce que vous votez pour ou est-ce que vous votez... Vous votez pour. Ok, donc deux voix pour. Et moi j'invite maintenant les autres membres du Conseil à ne prendre pas part au vote ou à s'abstenir pour que M. Thomas porte bien la responsabilité qui est désormais, puisqu'il est à tout prix en faveur des recommandations de la Chambre régionale des comptes, comme pour l'histoire de la DSP pour le bar du camping, le magistrat nous demandait justement de faire en sorte qu'il y ait, conformément aux articles L131-1 du CGCSP relatif aux prestations sociales, de se mettre en conformité. C'est une des 17 recommandations dans lesquelles on serait donc en irrégularité. Et c'est le point numéro 5. Donc on va adopter par les deux voix de M. Thomas et Mme Laure Boussard cette proposition, et en répondant à M. Jérôme Vivinec que non, désormais on ne pourra plus travailler avec Carré Boutique. Voilà, voilà, alors on parie. Parce que vous venez de me dire M. Thomas il y a quelques instants, il ne faut pas mettre tout sur le dos de Paris. Ben si. Là c'est encore un cas concret. Désormais, les agents de Carré ne pourront plus bénéficier des chèques cadeaux de Carré Boutique parce qu'on nous impose de passer par un centre national qui passera par Paris. Voilà, ben moi je ne suis pas pour. On nous impose des choses. Mais je suis pas d'accord. Et c'est bien la politique qu'on voulait pas, et qu'on nous impose par le magistrat, comme pour le bar du camping. Donc voilà. Donc Monsieur Vinec, vous prenez pas part au vote, vous abstenez. Parfait. Merci. Donc c'est ce Thomas qui emportera la responsabilité pleine et entière. On peut continuer maintenant,
je
si vous voulez bien.
Je porte la responsabilité. Je suis l'avis du CSE. Donc c'est tout.
Ben, c'est
voilà,
bien,
c'est terminé. Point. Allez.
Si. On a bien
mais
compris.
Pas aller contre l'avis du personnel.
Ben,
si
vous
le personnel
direz,
le veut.
Ben, vous irez dans les commerces.
Je suis pas là pour aller contre le personnel.
Vous irez expliquer ça dans les commerces dans les jours à venir.
Il n'y
a pas de souci.
Pour faire travailler les commerces, il n'y a pas que cette façon de faire.
Ben,
on peut faire autrement.
Ben non, on ne peut pas. Non. Voilà, donc on continue si vous voulez bien. Ça a été adopté par M. Thomas et Laure Boussard. Modification du tableau des emplois.
Oui, la modification du tableau des emplois, création d'un poste d'adjoint administratif, catégorie C à temps complet au service de l'urbanisme, création de 4 postes d'adjoint technique catégorie C à temps non complet, 20 heures hebdomadaires maximum au service scolaire chargé de l'encadrement des enfants en situation de handicap, les AESH, durant les temps d'activité périscolaire. Donc, c'est toujours le code général des collectivités territoriales qu'on a l'habitude de lire ça, qui prévoit que, bien sûr, il faut avoir tous les postes pour pouvoir fonctionner. Donc, donc là, il appartient donc au conseil municipal de la ville de Carré de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc en premier... de la filière administrative. Donc en deuxième point, c'est la création donc au sein des services scolaires. Depuis le mois de septembre 2021, par décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020, les collectivités doivent assurer l'accompagnement des enfants en situation de handicap, AESH, dans le cadre des activités périscolaires, garderies et temps du repas. S'agissant d'une obligation réglementaire, la collectivité est amenée à créer les postes correspondants au tableau des emplois. Il est proposé la création de 4 postes de catégorie C à temps non complet, donc 20 heures sur 35, relevant de la filière technique. Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par des agents contractuels relevant de cette catégorie dans les conditions fixées aux articles du Code général de la fonction publique. Le traitement sera calculé en référence à l'indice brut terminal de la grille des agents de catégorie C. Le régime indemnitaire IFSEP sera versé en référence aux fonctions exercées et à la catégorie C. Le recrutement de l'agent contractuel pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets du 19 décembre 2019 et du 15 février 88 afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Donc vu le code général, la loi, les décrets, vu l'avis favorable du CST commun donc en date du 26 mai 2023, il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'approuver la création d'un poste d'adjoint administratif catégorie C à temps non complet, d'approuver la création de 4 postes d'adjoint technique catégorie C à temps non complet 20 heures sur 35, de modifier le tableau des emplois, donc le document est joint après, d'autoriser le maire ou l'adjointe au maire chargé des ressources humaines à signer les documents administratifs correspondants et d'inscrire les crédits correspondants au budget.
Merci Patricia. S'il n'y a pas de questions, on peut adopter. Pas de vote contre, abstention, unanimité. Petite précision, hein, avec, on s'engagera désormais dans la voie du formalisme et du respect définitif de l'ensemble des nécessités que nous ont imposées les magistrats de la Chambre régionale des comptes. On transmettra également le vote de M. Ivinec à la Chambre régionale des comptes, puisqu'il était dans la plus totale illégalité. Donc, puisque vous êtes directement intéressé par le fait que votre épouse est elle-même coprésidente de la Chambre des commerçants et s'occupant tout particulièrement des chèques de carré boutique, vous ne pouviez pas prendre part au vote. Et vous ne pouvez pas rester dans la salle non plus. Donc voilà, c'est encore un exemple, la stupidité des choses à laquelle ça nous conduit, sachant qu'ici, à Carhaix, comme ailleurs, dans des villes de notre taille, nous sommes tous impliqués, et c'est plutôt à féliciter d'ailleurs, que les conjoints ou les conjointes, ou soi-même, on soit impliqués dans les associations locales. Et bien voilà, là, vous tombez sur le code pénal. Voilà, parce que vous êtes directement intéressé, d'autant plus que c'est quelque chose de lucratif pour votre épouse. C'est strictement interdit par la loi. Non, mais je vous le dis, ouais, parce qu'on peut toujours donner des leçons aux autres et essayer de les salir, mais là, par exemple, vous tombez sur le coup de la loi. Vous avez voté, vous êtes abstenu, donc vous n'aviez pas le droit de le faire, vous deviez quitter la salle. Et vous... Non, c'est vrai, on s'est abstenu. Mais vous pouvez pas changer de vote après, hein, parce que ça vous arrange. Hein. Non, on s'est tous abstenus après. Hein. Mais par contre, vous deviez même pas être dans la salle. Parce que vous avez pu influencer d'une manière ou d'une autre le vote des autres personnes présentes ici au conseil municipal. C'est interdit par la loi. Ça tombe sous le coup. Ah, mais c'est pas moi, c'est la loi. Il est l'époux de la présidente qui s'occupe des chèques de carré boutique. C'est interdit par la loi. C'est tout, parce que vous voulez la faire respecter à tout prix. Ben là, c'est un exemple concret. Oui, tout à fait. Ben, pour vous aussi, alors. Hein, c'est ça. Ben, au lieu de salir les autres, regardez un peu devant votre porte. Ce serait plus simple. Non, mais si, surtout vous, Mme Zayette. Écoutez, voilà, donc c'est juste pour ici. Est-ce qu'il y a d'autres votes pour, abstention, donc c'est à l'unanimité. On poursuit par une convention de prestation.
À convention de... Alors, convention de prestation de service pour la mutualisation du poste de technicien informatique et téléphonie catégorie B avec Power Communauté à raison de 50% du temps complet à compter du 1er juillet 2023. Le service informatique et téléphonie installé à Power Communauté comportait un seul agent, ingénieur territorial catégorie A. Par délibération en date du 16 novembre 2022, le Conseil communautaire a approuvé la création d'un poste de technicien catégorie B. Ce poste, comme celui de l'ingénieur, pourrait être mutualisé à 50-50 avec la ville de Carhaix. Le service a accueilli un technicien le 10 mai 2023. S'agissant d'un agent contractuel, il ne peut être mis à disposition et de ce fait, il convient de signer une convention de prestation de service avec la ville de Carhaix à compter du 1er juillet 2023. Donc le CST a émis un avis favorable aussi en date du 26 mai 2023. Il est proposé à mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'approuver la mutualisation du poste de technicien informatique et téléphonie avec Power Communauté à raison d'un mi-temps, d'autoriser le maire ou l'adjointe chargée des ressources humaines à signer la convention de prestation de services correspondante ci-jointe.
Merci Patricia. Il n'y a pas de remarques, on peut adopter. Des votes contre, abstention, unanimité. Il nous reste des informations, c'est ça, hein, c'est les derniers points à l'ordre du jour, les décisions prises donc qui sont en annexe hein, dans les délégations, le bilan d'activité de Glenmore, du centre de congrès, bilan d'acquisition et de cession immobilière, des comptes rendus d'activité pôle funéraire et le RSU hein, sur rapport social unique pour l'année 2021. Vous avez pris connaissance, hein, donc ils sont à votre disposition. Voilà, merci à toutes et à tous. Le conseil municipal est terminé. Bonne soirée.